Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La nuit des Bleus qui électrise le mondial. Ils filent en 16e de finale grâce à leur victoire 3-0 face à l'Irak après une très très longue mi-temps. 2 heures d'interruption, conséquence des orages. La pluie, on en aurait presque envie pour nous rafraîchir. Plus de 90% de la population française se retrouve impactée par une canicule qui a déjà fait plusieurs morts, comme ces deux enfants retrouvés sans vie hier dans une voiture à Carpentras. Et les premières sanctions du gouvernement après la présentation d'un rapport sur les dysfonctionnements dans le sillage de l'affaire Liana.
Première mission réussie pour les Bleus.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et face à l'Irak, les hommes de Didier Deschamps ont fait le travail. Ils décrochent leur qualification en 16e de finale du Mondial grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine tricolore marque ses 59e et 60e buts en équipe de France. Ousmane Dembélé débloque lui son compteur dans une grande compétition. Il marque le 3e but, ça fait 3-0 pour l'équipe de France. Au commentaire de cette rencontre, Jean-Louis Tour, on vous retrouve ce matin, Jean-Louis, en direct des États-Unis. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner en raison d'un orage. La mi-temps a duré 2 heures, Jean-Louis.
Oui, exactement. Et du coup, c'est une soirée qui fera date dans la tête des supporters. Parce que là, ce que vous entendez derrière moi, c'est le moment où ils en ont eu marre d'attendre. Alors pour s'occuper, ils ont lancé un karaoké géant, une ambiance boîte de nuit. Ça faisait 2h et 12 minutes que la mi-temps avait été sifflée. La reprise repoussée à chaque fois de demi-heure en demi-heure à cause des orages. Le jeu a pu reprendre. Les chutes d'eau étaient toujours là, mais la foudre était moins menaçante. Alors les joueurs sont occupés comme ils ont pu dans le vestiaire. Ils ont joué aux cartes, nous a lancé Didier Deschamps en plaisantant avant de développer plus sérieusement.
C'est des conditions particulières. On pourra dire qu'on l'a connu une fois. J'espère que c'est la première et la dernière. Après, je comprends. À partir du moment où il n'y a pas de risque à prendre. Donc, c'est le plus long match et la plus longue mi-temps où j'ai pu être sélectionneur. Bon, ça n'a pas d'impact sur le résultat. Je savais très bien qu'il fallait qu'on joue ce soir de par le calendrier après et derrière. Il n'y a pas de possibilité de rejouer demain.
Oui, impossible de déplacer le match car les Bleus rejouent dès vendredi contre la Norvège à Boston où les Bleus viennent d'ailleurs d'atterrir il y a quelques minutes. Un match pour la première place annoncé sans orage à l'heure où on se parle.
Et justement, ce France-Norvège, ce sera vendredi 21h sur RMC, la Norvège qui a battu le Sénégal 3-2 cette nuit et qui se qualifie également pour les 16e de finale. À retenir également la qualification de l'Argentine dans le groupe J grâce à sa légende Lionel Messi. Il offre les 2 buts de la victoire face à l'Autriche et bat le record du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde. Au nombre de 18, talonné de près par Kylian Mbappé, qui rejoint l'Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations. Et dans ce groupe J, l'Algérie vient de remporter son premier match. Il vient de se terminer, Lilian Boubnov, face à la Jordanie. Lilian Boubnov qu'on retrouvera plus tard à la Coupe du Monde. En tout cas, vous la vivez sur RMC à suivre ce soir le Portugal ou encore l'Angleterre. Il est 7h04, vous écoutez RMC. La France suffoque déjà. On attend de nouveaux records de chaleur ce mardi. Plus de 450 ont été battus hier pour un mois de juin. On compte également une centaine de records absolus comme à Angers et Rennes où la barre des 40 degrés a été franchie à l'échelle du territoire. Il a fait en moyenne 29,2 degrés. C'est la troisième journée la plus chaude de l'histoire avec une vigilance rouge étendue à 54 départements. Ce midi, une canicule qui met les nerfs à rude épreuve, les infrastructures aussi, c'est le cas des rails avec des perturbations à gare de Bordeaux hier où une partie du trafic a été interrompue. Gare de Lyon à Paris, c'est un TGV qui est arrivé de Bâle au cœur de la nuit avec 6 heures de retard aux alentours de 2 heures du matin. Lou Garnier était à l'arrivée pour RMC.
À la sortie de la gare, Lia est épuisée. Son trajet Mulhouse-Paris aura duré plus de 9 heures, c'est 4 fois plus qu'en temps normal. Son train a été arrêté en pleine voie pendant plusieurs heures et dans les wagons, pas de clim.
C'était étouffant, il n'y a pas d'autre mot. Je respirais mais j'avais pas l'impression d'avoir de l'air en fait. Il n'y avait pas de clim, ils ont fait une distribution de bouteilles mais au bout d'un moment il n'y avait plus d'eau. Avec le chat c'était très compliqué. On a appris après qu'il faisait plus de 50 degrés dans presque tous les wagons parce qu'on était en plein cagnard. Là j'en peux plus en fait.
Un véritable calvaire, renchérit Jordan.
Il y avait plusieurs malaises, c'était vraiment insupportable. On ne pouvait pas respirer, il n'y avait vraiment pas d'air.
Après plusieurs heures d'attente, ils descendent des wagons pour rejoindre un autre train, direction Paris, où ils arrivent à 2h du matin.
Tout est bousculé, c'est-à-dire que j'avais plusieurs choses à faire dans la journée, dans la soirée. Tout a été du coup annulé.
Lui qui devait dormir chez des proches va finalement dormir à l'hôtel. Un peu plus loin, Jacques soupire, la journée va être longue.
Je suis un peu les yeux comme ça, je me dis comment je vais être, dans quel état je vais être au boulot.
Alors tous espèrent obtenir des explications de la part de la SNCF, ainsi qu'une compensation financière.
Et il y aura des perturbations aussi aujourd'hui dans le métro parisien sur les lignes 5, 6, 8 et 13 en raison de cette vague de chaleur qui a déjà fait plusieurs morts. 13 personnes sont décédées noyées depuis le début de cet épisode. 3 personnes âgées sont décédées chez elles dimanche en Gironde. Hier, ce sont 2 enfants qui ont été retrouvés sans vie à Carpentras, enfermés, Rachel Sadodine, dans le véhicule de leur mère.
Appelés en début d'après-midi, les pompiers découvrent les 2 petits garçons de 2 et 4 ans en arrêt cardio-respiratoire, impossible de les réanimer. Leur décès est constaté peu de temps après. D'après les premiers éléments de l'enquête, les enfants échappent à la vigilance de leur mère, tout juste rentrée des courses, montent dans la voiture garée devant la maison familiale, dans le quartier du Bois de Lubac, et ils s'y enferment. Il fait alors près de 40 degrés à Carpentras. On ignore à ce stade combien de temps les enfants sont restés bloqués à l'intérieur du véhicule. Les autopsies doivent avoir lieu aujourd'hui. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Prise en charge dans un état de choc par les pompiers, la mère de famille de 33 ans n'a pas encore pu être entendue.
Il y aura une nouvelle réunion interministérielle au sujet de la chaleur. Elle doit se réunir dans la matinée autour de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a reçu les premières conclusions d'un rapport d'inspection accablant dans le siège de l'affaire Liana, révélant des dysfonctionnements individuels et structurels qui ont empêché Jérôme Barella d'être inquiété en dépit d'une plainte déposée pour viol sur mineur contre lui. L'urgence n'a pas été prise en compte, dit Sébastien Lecornu, qui s'engage à ne pas se défausser. Et le gouvernement de prendre des premières mesures, des sanctions, Pierre Bazin, contre plusieurs acteurs de ce dossier.
Oui, la substitut du procureur d'Auch en charge de ce dossier ne peut plus travailler sur des affaires de mineurs, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Laurent Nunez, de son côté, a décidé de muter 2 gendarmes, le directeur d'enquête ainsi que son commandant. Tous se voient reprocher dans ce dossier une défaillance individuelle, manque de considération du caractère urgent du dossier, délaissement de l'enquête, non-respect des procédures établies, manque d'investissement. Toutefois, ce rapport pointe également des dysfonctionnements structurels et un manque de moyens. Pas assez de magistrats au parquet d'Auch alors que la charge de travail était soutenue. Manque d'accompagnement et de formation de la substitut mise en cause, un greffe du tribunal qui croule sous les enquêtes. Autant d'éléments qui ont également entravé les investigations et qui ont empêché l'interpellation de Jérôme Barella avant la disparition de Liana.
Et notez par ailleurs que 134 personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre de la réexamen de 70 000 dossiers pour violences sexuelles sur enfants. À retenir également la panthéonisation de Marc Bloch ce mardi, historien, soldat et résistant assassiné par la Gestapo en 1944. Ce sera la 6e et dernière panthéonisation d'Emmanuel Macron. On revient sur ce match Algérie-Jordanie, la victoire de l'Algérie. 2-1, le match vient de se terminer. Les Algériens étaient menés 1-0, je vous le rappelle. Les Algériens sont 3e au classement de ce groupe J, dominé ce matin par l'Argentine. La Coupe du Monde, vous la vivez sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer et les toutes dernières nouvelles, évidemment, en direct. Il est 7h09. Tiens, je voudrais en profiter aussi pour vous parler des trophées PME. C'est la 17e édition cette année des trophées PME RMC BFM. Donc, trophée 2026 et les inscriptions se terminent dans quelques jours. Si vous êtes patron, si vous êtes salarié d'une entreprise que vous avez envie de mettre en valeur, eh bien c'est le moment. Les PME, c'est le pilier de l'économie française depuis maintenant 20 ans. RMC les met à l'honneur chaque année et les soutient avec ce premier concours de France. Alors si vous êtes donc entrepreneur, si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, eh bien participez et gagnez peut-être 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC et sur les chaînes BFM locales. N'oubliez pas, Blablacar, Too Good To Go, ils ont commencé chez nous, ils ont commencé avec ce concours trophée PME. Alors comme eux, comme c'est qui le patron également, comme toutes ces marques qui ont joué le jeu et qui ont été récompensées par RMC. Vous n'hésitez pas pour vous inscrire. Vous allez sur le site trophée-pme-rmc-bfm.fr, trophée-pme-rmc-bfm.fr, et il vous reste quelques jours pour vous inscrire et pour gagner. Il est 7h10 et il y a Ethan qui a veillé cette nuit pour regarder les matchs. Bonjour Ethan.
Bonjour Apolline, comment ça va?
Eh ben ça va bien, et vous Ethan? Ethan qui nous appelle de Brest. Alors la nuit?
Fatigué. Si vous ne m'en voulez pas, je pense qu'après l'appel, je vais aller dormir. L'émission en replay, mais je vais aller dormir.
Je comprends bien. Ethan, quel match vous avez suivi cette nuit?
J'ai suivi France-Irak, Argentine-Autriche évidemment, mais ça c'est à 19h. Ouais. J'ai suivi France-Irak, j'ai suivi Norvège-Sénégal et Jordanie-Algérie qui vient du coup de se finir.
Voilà, et qui vient de se terminer, et on le rappelle, l'Algérie qui a gagné 2-1 face à la Jordanie. Dans une maison calme, vide, ou alors avec des amis, avec comment vous avez fait ?
Dans une maison avec ma mère qui bosse, enfin qui se lève pour bosser, et ma sœur qui est très intelligente et qui a décidé de ne pas faire, de ne pas se regarder un Jordanie-Algérie à 5h comme son crétin de frère.
Vous n'avez pas monté trop le son du coup ?
Non, on monte pas trop le son, on essaie d'être discret quand même.
Donc la maison, vous ne pouviez pas crier quoi ?
C'est ça. Après, bon, de toute façon, entre minuit et 2h, il n'y avait pas trop besoin de crier.
Mais ce que je trouve très dur, c'est ça, c'est entre minuit et 2h, c'est veiller en se disant ça va reprendre, sans savoir quand.
Bah justement, c'est pour ça que j'aurais bien aimé dormir. Il m'aurait dit, bon, allez, vas-y, on reprend 1h30, c'est sûr.
Non, en fait, il faudrait mettre un système d'alerte, un système de réveil ne se met en route que quand le coup d'envoi est à nouveau, lancé. Courage, Ethan, du coup, pour la journée. Ça va, vous aviez une journée calme devant vous ?
Non, pas vraiment. Non, je dois me réveiller à 13h. Donc du coup là, j'ai 5h de sommeil devant moi.
Et vous faites quoi à 13h ?
Non, c'est pas. J'ai un rendez-vous à 15h pour l'année prochaine pour les études.
Bon, pour les études. Alors il faut pas le louper, ok ? Donc quelques heures de sommeil et puis cet après-midi on y retourne. Merci Ethan en tout cas. Comme Ethan, vous avez peut-être veillé, vibré. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h12, et si c'était dans les églises qu'on faisait classe ou simplement les ouvrir pour aller se reposer, des salles municipales climatisées pour réunir les plus fragiles, pourquoi ces idées simples ne sont pas encore systématisées? C'est ce que vous nous dites ce matin, Franck Lirzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, vous êtes ingénieur des mines, et face aux canicules, vous dites qu'il faut créer des refuges climatiques. C'est votre parti pris et vous nous expliquez comment dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Comment adapter notre pays aux canicules ? 54 départements en vigilance rouge aujourd'hui. La moitié ouest de la France va une nouvelle fois souffrir et dépasser les 40 degrés. Bonjour Franck Lirzin.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, ingénieur des mines, et vous venez de publier « Habiter un monde qui brûle ». C'est aux éditions de l'Aube. Votre parti pris ce matin, c'est que face à cette situation, il faut créer de toute urgence des refuges climatiques dans les villes. De quoi on parle ?
Alors, des refuges climatiques, c'est des lieux où on peut se rendre à toute heure de la journée pour se rafraîchir. Donc, c'est des lieux qui sont climatisés ou qui sont frais. Donc, ça peut être des églises, ça peut être aussi des musées, des bibliothèques ou des gymnases. Donc, tous les endroits où on peut venir naturellement pour passer quelques heures et se sentir mieux.
En quelque sorte, des oasis de fraîcheur au milieu de la ville. Quand on voit qu'il y a près de 5500 écoles totalement ou partiellement fermées hier et encore aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait même imaginer de faire cours dans ces églises ou dans ces gymnases ou dans ces refuges climatiques ?
Alors oui, tout à fait, parce que les enfants se retrouvent à la maison et les maisons peuvent être en surchauffe. Ce qui est effectivement
pire.
Donc trouver des endroits plus frais pour les enfants, ce serait une solution pour organiser des classes, effectivement, et que les cours puissent continuer.
L'exemple des gymnases, il est très intéressant parce qu'en fait, les gymnases sont déjà réquisitionnés dès qu'il y a des catastrophes, dès qu'il y a des déplacés, dès qu'il y a des problèmes d'inondation. Donc au fond, on sait réquisitionner les gymnases. Pour vous, il faudrait juste le faire aussi en cas de grosse chaleur.
Bah exactement, il y a des plans grand froid, il faudrait des plans grand chaud qu'on puisse déclencher et qui permettent effectivement d'aller directement dans ces refuges.
Les plans grand froid et les plans grand chaud, c'est effectivement tout à fait logique quand on vous écoute, et on se dit que c'est assez étonnant qu'on ne l'ait pas imaginé comme ça. Voilà, ça c'est l'urgence. Et puis il y a aussi l'adaptation à plus long terme. Qu'est-ce qu'on fait ? Les changements, ça prend du temps, ça coûte très cher. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous dit on va adapter le bâti, mais que ça prendra très 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 longtemps. On a même le directeur du Centre scientifique et technique du bâtiment qui nous dit il faudra plusieurs siècles pour rénover l'ensemble du parc immobilier. Il a raison ou pas ?
Alors, pour tout rénover, oui. Pour installer rapidement des climatisations, des volets ou ces refuges climatiques, ça peut se faire de façon beaucoup plus rapide. Ça nécessite une mobilisation collective, c'est ça la clé, et en particulier au niveau des maires et des villes, puisque c'est là où ça se passe. Et ça, ça peut se faire sur une dizaine d'années. On a eu des déploiements de fibres, des déploiements d'électricité dans le passé qu'on a fait de façon assez rapide sur quelques années ou quelques décennies. Donc c'est tout à fait envisageable.
On a su faire la fibre, pourquoi on ne sait pas faire les volets ?
On pourrait tout à fait. Il y a 5 millions de Français qui sont dans les zones critiques de la chaleur. Donc c'est eux qui devraient être en priorité concernés. En priorité, les personnes les plus vulnérables. Et donc, il y a le blocage, il est surtout de passer à l'action par des financements, par une mobilisation politique pour effectivement déployer des solutions dont certaines peuvent être très simples.
Je suis quand même frappée que quand on va dans des villes plus méditerranéennes, quand on va même à Rome ou quand on va à Madrid, il y a ces habitudes. À Rome, l'été, vous ne voyez que des volets fermés ou un peu entrouverts, où on aperçoit vaguement une silhouette derrière. Les gens ont l'habitude de laisser les volets fermés. Comment est-ce possible qu'on ait perdu ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu une sorte de rupture ? Ils existent ces volets, pourquoi on les a enlevés et jamais remis ?
Alors pas toujours, à Paris, dans l'Haussmannien, il n'y a pas toujours des volets. On n'a pas de culture climatique en France, surtout dans la partie nord, parce qu'on a un climat qui est historiquement tempéré. Le problème, c'était le froid. Et donc la chaleur, c'est nouveau, donc c'est aussi quelque chose qu'on apprend, alors un peu dans la difficulté, mais on apprend à fermer les volets la journée, à ouvrir les fenêtres la nuit, et c'est un premier rempart contre la chaleur.
Est-ce qu'il y a une forme de déni de la classe politique ? Quand on écoute les réactions, notamment du président de la République depuis deux jours, c'est attention, veillez bien les uns sur les autres, être attentif à nos aînés, à nos enfants, aux personnes isolées, tout cela c'est évident, mais est-ce que là on n'est quand même pas face à année après année une forme de déni des grands plans qui n'ont jamais été vraiment mis en œuvre ?
Il y a à la fois un décalage entre ce que vivent les gens qui sont au quotidien impactés et qui le vivent dans leur chair et effectivement les actions, les discours qui sont menés derrière. On voit dans d'autres pays comme en Espagne, en Italie, vous le citiez, il y a des plans canicules qui sont mis en place effectivement, ce qui suppose cette mobilisation. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque en France, c'est le passage à l'action.
Et une question sur nos centrales nucléaires, est-ce qu'elles vont tenir le coup ? Le réacteur numéro 2 d'une des centrales du Tarn-et-Garonne est à l'arrêt depuis hier soir parce que la rivière est trop chaude, parce qu'il fait trop chaud. Est-ce qu'on a les moyens de tenir du point de vue de l'électricité ?
Alors, il faut espérer que oui. Après, la difficulté, c'est que les canicules se répètent. Et donc, le niveau de l'eau baisse, les températures augmentent. Donc, on voit que petit à petit, ça s'affaiblit. Il faut espérer qu'il n'y ait pas une nouvelle canicule qui arrive en juillet et qui, là, serait sans doute plus critique encore que celle qu'on vit aujourd'hui.
Et on va croiser les doigts. Merci beaucoup, Franck Lirzin, d'avoir été avec nous ce matin. Des réactions également de tous ceux qui souffrent de la chaleur.
Et chacun voit son refuge climatique à sa porte. On a d'abord Anto qui nous dit « Moi, j'ai demandé à mon maire d'ouvrir la salle des fêtes qui est tout juste rénovée ou alors l'autre école d'à côté, une salle de la mairie. On m'a répondu que ce n'était pas possible. » On a aussi Julien qui a une solution un peu plus insolite qui nous dit « Chez nous, en Touraine, il y a des caves qui sont aménagées qui pourrait accueillir des centaines de personnes à 15 degrés pour faire refuge climatique. »
Les caves de Tuffeau de la Touraine. Merci en tout cas. On en reparlera avec Cécile Duflo à 7h50. On en reparlera aussi à 8h30 avec Patrick Martin, le patron des patrons. Je lui poserai aussi la question du congé climatique que proposent les écolos. Patrick Martin qui sera mon invité à 8h30. Mais pour l'heure, à 7h21, on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Historien d'Apolline Matin, l'historien et résistant français Marc Bloch va faire son entrée au Panthéon et c'est un symbole pour la France.
Ah oui, un intellectuel, ancien combattant et résistant juif abattu par la Gestapo. C'est l'histoire de France qui entre au Panthéon avec Marie-Bloch et Apolline.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demanche qui arrive pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour, 7h22 sur RMC et RMC Story. Arthur, ce soir, l'historien Marc Bloch va faire son entrée au Panthéon, cérémonie et discours du président de la République. Et justement Arthur, vous étiez hier avec Emmanuel Macron au Panthéon, dans les derniers préparatifs, vous-même en tant qu'historien.
Oui, c'est la 6e panthéonisation d'Emmanuel Macron depuis son entrée en fonction. Elle aura donc lieu ce soir à 21h. Et ça sera peut-être la dernière, hein, puisque le président quitte le pouvoir dans un an. Alors soyons clairs, cette entrée au Panthéon, Apolline, ça sera forcément un message politique.
Emmanuel Macron s'est même confié à vous. Il vous a dit la raison pour laquelle il avait choisi Marc Bloch.
Mais absolument, il me l'a dit. Marc Bloch, c'était un des plus grands historiens du XXe siècle, qui était aussi professeur à l'université. On lui doit des livres très marquants. Et pour le président, le faire entrer au Panthéon, c'est d'abord rendre hommage aux enseignants qui ont beaucoup souffert ces dernières années, notamment avec l'assassinat de Samuel Paty, Dominique Bernard ou encore Agnès Lassalle. Cette panthéonisation, c'est donc remettre l'éducation au centre du projet républicain. Et Emmanuel Macron a prononcé une phrase que j'ai trouvée très très juste. Cette phrase, la voici. Marc Bloch incarne la République scientifique.
La République scientifique. Marc Bloch, c'est aussi un grand soldat.
Et oui, puisqu'il a combattu avec héroïsme pendant la Première Guerre mondiale, donc de 1914-1918. Il a même reçu la Croix de Guerre, hein, qui est la plus haute distinction militaire française. Mais c'est pas tout, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il a 53 ans, qu'il est malade, qu'il est père de famille nombreuse, il va s'engager volontairement dans l'armée pour servir à nouveau son pays.
Et Marc Bloch va aussi affronter l'antisémitisme.
Absolument. Pendant l'occupation, donc entre 1940 et 1945, c'est le maréchal Pétain qui dirige la France et il met en place un antisémitisme d'État. En gros, les Juifs n'avaient plus aucun droit, ou presque. Marc Bloch, qui était juif, va donc tout perdre. Alors normalement, les Juifs n'avaient pas le droit d'être professeurs. Mais Marc Bloch avait été tellement courageux pendant la Première Guerre mondiale qu'il a obtenu une exemption pour service rendu à la France qui était très très rare. On lui prend quand même son appartement parisien. Du coup, il est obligé de se réfugier dans la Creuse.
Mais là encore, il ne se laisse pas abattre.
Et non, puisqu'il va s'engager dans la résistance à 56 ans. Un dernier acte de bravoure qu'il va payer très cher puisqu'en 1944, il est arrêté à Lyon avant d'être emprisonné, torturé et exécuté par la Gestapo, la police politique des nazis. C'est donc à un patriote exemplaire qu'on rendra hommage ce soir, un intellectuel et un homme d'action à la fois, ce qui est rare.
Merci beaucoup Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, et je ne peux que recommander la lecture, la relecture de L'étrange défaite qui dit tant aussi des fragilités de la France. Votre chronique à lire et à retrouver et à écouter sans s'enlacer en podcast et sur le site et l'application RMC. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Vous avez entendu le mot héroïsme prononcé par Arthur Chevalier, l'héroïsme de Marc Bloch. Nous avons un héros, nous, Arnaud Demange. Arnaud, à 8h30 tout à l'heure, mon invité, c'est le patron des patrons, Patrick Martin.
Il fait chaud ce matin. Et Patrick Martin répondra donc à la question, peut-on travailler en pleine canicule? Voici sa réponse.
Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi.
Non, parce qu'il y a un vrai débat en ce moment. Vous avez vu Valérie Pécresse, qui est quand même la présidente de la région Île-de-France, c'est pas rien. Elle a recommandé de privilégier le télétravail. Eh ben nous, on l'a bien écouté, parce que ce matin, on est tous là. On est tous au boulot, autour de la table. Vous avez vu, on est là, monsieur Martin. Hein. Nous, on est là, monsieur Sadé. Hein. Moi, je suis là, monsieur Sadé. J'ai hésité à venir, eh ben, parce que j'avais quand même un mot d'excuse de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Ben, je suis venu, alors, juste pour profiter de la clim. Hein, ça faut être honnête. C'est... Moi, je vais passer toute ma journée dans les locaux de RMC. C'est pas climatisé chez moi. Hein. Mmh. Alors, du coup, je vais faire toutes les émissions au frais. Voilà, Apolline Matin. Après, j'irai dans les grandes gueules. Mmh. Je dirai, c'est quand même dur la canicule. Qu'est-ce que t'en penses, Charles Consigny? Ben, écoutez, je trouve qu'on se prend la tête pour 3 jours de chaleur. Bon, effectivement excessive. Mais dans ce pays de feignasses, d'assister. Ne m'interromps pas quand je parle, Arnaud, s'il te plaît. Dès qu'on peut trouver une excuse pour pas en foutre une rame, excusez-moi, voilà. Mais je sais pas ce qu'en pense Emmanuel de Villiers. Ceux qui ont arrêté de bosser, c'est les communistes. Ils veulent mettre la France à genoux. C'est des millions de morts, le communisme. Macron a cédé. Voilà. Après, je vais aller chez Estelle Midi pour débattre de l'opportunité ou pas de faire des barbecues, quels légumes on choisit pour les faire griller, quelles saucisses. Et puis après, je vais débriefer le match des Bleus jusqu'à minuit dans l'after et proposer de faire jouer Mbappé latéral droit. Attends, t'es malade, tu veux une tarte? Ah, Daniel, il déconne, Daniel. Tiens, une journée. Je vais passer ma journée là.
C'est une bien belle journée. Ouais.
Alors, le gros débat du week-end sur les chaînes info, c'était les climatiseurs sont-ils de droite? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont opposés sur le sujet. Marine Le Pen a appelé à massivement climatiser les locaux publics. Son père, Jean-Marie Le Pen, il aurait été plus loin, il aurait dit « Climatiser les locaux publics, absolument, n'est-ce pas ?» Mais est-ce bien nécessaire de le faire à la caisse d'allocation familiale où les usagers ont déjà l'habitude de la chaleur, si vous voyez ce que je veux dire? Et Jean-Luc Mélenchon a répondu « Marine Le Pen n'y connaît rien, climatiser partout, ça va augmenter les dégâts. » En fait, il faut organiser le prochain débat de la présidentielle dans les rayons de Darty,
mais voilà,
avec Gabriel Attal qui dira « Contre la canicule ?» Il faut décaniculer, madame de Malherbe. Un grand décaniculage doit avoir lieu. Décaniculons, décaniculons, décaniculons. Ohé, ohé.
Rendez-vous avec
à 8h30.
C'était Arnaud Demange, mesdames, messieurs, qu'on retrouve évidemment à 8h15 en direct. Il est 7h28, à tout de suite pour la météo du journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Près de 39 millions de Français luttent contre la canicule, une canicule qui perturbe le système scolaire, écoles fermées, horaires aménagés.
et système D pour éviter la fournaise dans les classes. Face à cette fournaise, le monde agricole souffle. Les éleveurs, céréaliers, agriculteurs obligés de s'adapter au jour le jour. Les Bleus qualifiés pour les 16e de finale au bout de la nuit. Victoire 3-0 face à l'Irak dans une rencontre interrompue pendant plus de 2 heures par les orages.
Et de nombreux enfants resteront encore à la maison aujourd'hui.
La chaleur perturbe le bon déroulement des établissements scolaires. Plus de 1300 écoles fermées hier. Plus de 4000 ont aménagé leurs horaires. Et Caroline Renaud, dans les établissements qui restent ouverts, on s'adapte comme on peut, avec l'aide parfois de parents d'élèves.
Des enfants rouges de chaleur dans une classe à plus de 30 degrés dès le matin. Impossible pour Julie de laisser son fils de 5 ans dans ces conditions.
Il disait que c'était dur dans les classes, qu'il ne travaille plus. On leur a dit, nous, on va essayer de trouver des couvertures de survie. Tout le monde a regardé sa boîte à gants, demandé à ses employeurs.
Avec trois mamans, elle bâche les grandes fenêtres de la cantine.
Il y avait plus cette sensation d'étouffement, de chaleur oppressante. Et les instituts nous ont remerciés.
Dans la classe de la fille d'Axel, un seul ventilateur. Alors lui aussi s'est organisé avec d'autres parents.
Pour acheter du blanc de meudon, trouver quelques éponges et pinceaux, récupérer des échelles où on pouvait.
Puis badigeonner la façade vitrée de l'école d'une couche blanche opaque.
Ce qui fait une espèce de couverture blanche qui absorbe les rayons du soleil et qui évite que ça chauffe trop à l'intérieur de l'école.
Seule astuce selon lui pour aider les enfants face à l'inaction de la mairie.
C'est hallucinant qu'on se retrouve un peu du jour au lendemain à devoir faire ça alors que ça fait maintenant 2-3 ans qu'il y a différents épisodes de canicule, qu'à chaque fois on soulève les mêmes problématiques.
Ce père de famille demande entre autres davantage de ventilateurs et l'installation de filtre solaire sur les vitres de l'école.
Et cette vague de chaleur perturbe également le monde agricole. Cela a des conséquences sur la production, les vignobles, les végétaux et un risque de déshydratation à des animaux. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Pibrac, près de Toulouse, pour RMC, ville où on attend aujourd'hui plus de 40 degrés. Et vous êtes avec un céréalier qui est obligé de réorganiser ses journées.
Oui, c'est ça, nous sommes avec Daniel. Daniel qui s'est levé très tôt. À quelle heure, Daniel, ce matin?
Oui, on commence à 5h du matin, de toute façon, à la pointe du jour.
Pour éviter la chaleur, c'est ça?
Pour éviter les fortes chaleurs, entre 14 et 18 heures, comme toutes les professions qui travaillent à l'extérieur.
Et vous, la cabine, elle est climatisée, vous me disiez?
Oui, obligatoire, sinon c'est intenable.
Alors, l'après-midi, vous reposez les corps, vous reposez aussi les machines?
Non, oui, mais ça ne peut pas le faire de mal, puisqu'elles souffrent aussi de la chaleur. Donc, tout le monde se repose l'après-midi et on reparle pour une nouvelle journée le soir.
Voilà, il va faire 50 degrés en plein milieu du champ ici où cet après-midi, eh bien, Daniel va semer du soja sur un champ de blé qui a été récolté. Et en raison du changement climatique, Daniel me disait tout à l'heure que depuis 20 ans, eh bien, les récoltes sont avancées de 2 ou parfois 3 semaines.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Pibrac, près de Toulouse, pour RMC. Autre conséquence de cette canicule sur les rails, une panne électrique hier en gare de Bordeaux. Jusqu'à 4 heures de retard, des trains supprimés, des centaines de voyageurs bloqués. Galère également pour les passagers d'un TGV reliant Bâle à Paris. Plus de 6 heures de retard, bloqués sans climatisation hier après-midi en rase campagne, en pleine canicule près de Dijon. Le train est arrivé en gare de Lyon vers 2 heures du matin. Des difficultés également aujourd'hui sur les RER, métro, transilien en Ile-de-France, vitesse réduite et suppression de certains trains, toujours en raison de la chaleur. Deux enfants sont morts hier en début d'après-midi. Ils ont été retrouvés inanimés dans la voiture de leur mère en pleine canicule à Carpentras, dans le Vaucluse. RMC 7h34, première sanction dans l'affaire Liana. Une magistrate du parquet d'Auch est dessaisie des affaires impliquant des mineurs et deux gendarmes du Gers sont mutés et écartés de la police judiciaire. Des mesures annoncées après un rapport interne pointant des défaillances dans le traitement des plaintes. Et pour le ministre Gérald Darmanin, il s'agit selon lui d'abord de fautes individuelles.
Je pense qu'on voit qu'il y a des défaillances très importantes qui ne sont pas dues dans le cas très précis à des manques de moyens ou à des problèmes quelconques. Ils sont dus, me semble-t-il, pour les gendarmes comme pour la magistrature, ici, à des défaillances personnelles. Et je pense que ce n'est pas grave de le reconnaître. Ce n'est pas jeter l'opprobre sur tous les magistrats qui font un travail absolument formidable. Aujourd'hui, ils sont en train de refaire l'intégralité des 70 000 plaintes des viols et des délits sur les mineurs. Donc ils font ce travail très important, mais il arrive qu'il y ait des fautes professionnelles qui soient commises et il faut évidemment les sanctionner.
RMC 7h35, nuit interminable pour les Bleus et une qualification pour les 16e de finale. Victoire 3-0 contre l'Irak grâce à un doublé de Mbappé et un but de Dembélé dans un match interrompu plus de 2 heures en raison de violents orages. Un scénario inédit dans ce mondial, Valentin Jamin.
Oui, à commencer par les joueurs qui, à chaque impact de foudre, voyaient l'heure de reprise repoussée, raconte le capitaine Kylian Mbappé.
Émotionnellement, nerveusement, c'est très difficile. On devait rester concentré, on devait rester concerné. Ça demande beaucoup. Les joueurs ont fait un grand effort, le staff aussi.
Les Bleus ont eu une collation et ont tout fait pour rester dans le match, explique le défenseur Jules Koundé.
On a essayé de rester chaud, en faisant du vélo, mobilité, ce genre de choses. On discutait du match.
En attendant, les supporters, sommés de quitter leur siège, ont rempli les coursifs pendant cette pause attendue très longtemps. Temps devant les stands pour boire, pour manger. Certains en ont souri et profité.
Pour manger des cheesesteaks, pour boire un coup. Il faudrait pas que ça tombe sur un joueur, quoi.
C'est un peu chelou, un petit peu long ce moment d'attente. Ouais. On s'est hydraté un peu.
Je suis bien habillé, j'ai le poncho.
Mais à la fin, Gabriel en a eu marre.
Bon, il y a de la pluie dans tous les pays. En France, on en a tous les jours quasiment, au moins 6 mois de l'année. Les matchs s'arrêtent pas, le travail s'arrête pas. Je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon.
Après une hola, le match est reparti. Et comme récompense, ses supporters ont eu droit à une belle victoire des Bleus.
La Norvège qualifiée également grâce à sa victoire 3-2 face au Sénégal, doublé d'Haaland. La première place se jouera entre la France et la Norvège ce vendredi à 21h. Victoire ce matin de l'Algérie, 2-1 face à la Jordanie. Les partenaires de Mahrez joueront leur qualification sur le dernier match contre l'Autriche. 4 matchs au programme aujourd'hui, Portugal, Ouzbékistan ou encore Angleterre, Ghana. Toutes ces rencontres sont bien sûr à suivre en direct sur AMC, sur la radio digitale 100% Coupe du Monde.
Et puis les courses, le quintet, c'est sur l'hippodrome de Dieppe à 18h30.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori le 5 Mister Chang et son outsider le 7 Bayless Bachelor.
Et puis c'est le moment de jouer non seulement au quintet mais à la prime de match. Mais oui, la prime de match, la nouvelle prime de match qui est à nouveau en jeu. Il y avait 30 000 euros, souvenez-vous, au départ, 30 000 euros et on a rajouté 500 euros à chaque but marqué depuis cette Coupe du Monde. Au moment où on se parle, la prime est donc, attention, de 36 500 euros. Retenez bien ce montant parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si vous connaissez le montant de la prime, elle est pour vous. Pour vous inscrire, vous envoyez maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
C'est terminé. La victoire de l'équipe de France, 3-0 face à l'Irak. Les Bleus qualifiés mathématiquement pour la suite.
Les Bleus qualifiés pour les 16e de finale. Victoire 3-0 contre l'Irak cette nuit. Un match interrompu par les orages qui s'est terminé à 3h du matin. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline, bonjour
Eric,
à tous.
Eric, notre fil rouge pour suivre cette Coupe du Monde, jour et nuit, des Bleus sereins. Et c'est ce que vous nous direz dans un instant. Il y aura aussi Jean-Louis Tour qui sera en direct avec nous, la voix du foot sur RMC. Il a commenté le match au stade de Philadelphie. Il nous racontera comment cette très très longue coupure, plus de 2 heures au milieu du match, s'est déroulée. Allez, à tout de suite, on vous raconte tout, 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, il vous reste 6 minutes pour gagner la prime de match. N'oubliez pas, jusqu'à 7h48, si vous envoyez but au 7-32-16, but au 7-32-16, alors vous pourrez être tiré au sort et c'est la somme de 36 500 euros que vous gagnerez. 36 500 euros, voilà la cagnotte de la prime de match. Envoyez but au 7-32-16, il vous reste 6 minutes. Il est 7h42.
Il est 1h45 si vous nous écoutez en France. Vous ne voulez pas vous coucher sans le résultat final de France-Irak. Les deux équipes sont de retour à l'échauffement sur la pelouse et ça va reprendre d'ici quelques minutes.
D'ici quelques minutes, non. Ça a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps. Quasiment 2 heures de coupure après des orages au-dessus de Philadelphie. C'était donc cette nuit. Mais la France qualifiée pour les 16e de finale. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour.
Notre fil rouge pour suivre cette Coupe du Monde, victoire 3-0 contre l'Irak cette nuit, doublé de Mbappé, un but, le premier d'Ousmane Dembélé. Vous allez nous dire comment vous avez trouvé les Bleus, mais d'abord, effectivement, on revient quand même sur ce match interminable. Jean-Louis Tour, qui a non seulement veillé cette nuit, mais qui veille encore ce matin. Jean-Louis Tour en direct de Philadelphie. Un match qui s'est donc terminé à 3h heure française, cette interruption interminable. Vous l'aviez imaginé pour quelques minutes, ça a duré plus de 2 heures. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait d'abord, les supporters? Qu'est-ce qu'ont fait les joueurs? Comment ils ont vécu ce moment?
Ouais, 2h12, hein, ça a duré. 2h12 en tout, entre la mi-temps sifflée et la reprise de la deuxième période. Alors les joueurs, déjà ils avaient jamais vu ça. Même Didier Deschamps, il a dit, ça a été la mi-temps la plus longue de ma carrière. Donc bah ils se sont occupés en faisant un peu d'activation, du vélo, une petite collation, en discutant du match. Mais surtout, bah ils ont vu le temps long parce qu'en plus c'était incertain. Toutes les demi-heures, on leur rajoutait du temps avant que ça reprenne. À chaque fois que la foudre tombait quelque part aux alentours du stade, on remettait une demi-heure. Et alors par contre les supporters, il y a un moment qui était génial. Franchement, pendant une demi-heure, c'était karaoké géant, ambiance boîte de nuit autour de nous en tribune, parce qu'ils se sont dit quitte à attendre, autant s'amuser un peu. Donc voilà, ils ont passé un bon moment, les supporters, et d'ailleurs personne n'a quitté le stade.
Ouais, ça a été pris plutôt franchement avec le sourire, avec la bonne humeur du côté des supporters, du côté des joueurs aussi, même si honnêtement on se dit comment remettre toute l'énergie en route quand on s'est arrêté si longtemps.
Oui, bah à l'arrivée ils nous ont montré quand même qu'ils y sont parvenus. Alors il y a eu un échauffement assez long, Mbappé tenait Deschamps aussi à ce qu'il s'échauffe longuement avant de reprendre. On a vu même Kylian Mbappé parler aux jardiniers pour montrer les endroits où il fallait drainer un peu mieux la pelouse parce qu'elle était gorgée d'eau à ce moment-là. Donc voilà, Deschamps en tout cas globalement il sort quand même satisfait parce qu'il y a la victoire, il y a pas de blessés, ça aurait pu être le cas avec cette pelouse détrempée à la fin. Et puis tout le monde est rentré, alors forcément ils ont atterri il y a quelques minutes à Boston où ils vont pouvoir se reposer maintenant, avec un peu de retard dû à l'interruption, mais Deschamps avait même peur que l'avion ait quelques soucis avec les orages, mais ça là-dessus, il n'y a eu aucun souci, donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur la Norvège.
On va pouvoir se concentrer sur la suite, et vous allez pouvoir dormir un peu. Merci beaucoup Jean-Louis Tour, en direct de Philadelphie, retour ici avec vous Eric Dimeco. Honnêtement, on se dit que ça devait être assez dur de vivre cette interruption pour les joueurs, mais ils ont montré qu'ils étaient totalement au niveau, quoi.
Oui, c'est pas évident. Après, il y a des protocoles. Ils s'y attendaient. Hein. C'était annoncé cette météo. Il y avait même un doute sur la tenue du match ou non. Il y a quelques jours, donc je pense qu'ils y étaient préparés. Alors après, oui, il faut rester. Surtout, le gros problème, c'est de se blesser en reprenant parce que on est froid ou on s'est pas bien échauffé et le petit coup de fringale au bout de 4 heures, je sais plus combien de temps a duré ce match à l'arrivée, voilà. Donc ça a été bien géré, mais l'équipe de France est quand même pourvue de gens qui savent gérer ce genre de problème.
3-0 contre l'Irak, victoire plutôt facile.
Oui, bon, après c'était c'est pas l'exploit de l'année, hein, Pauline, hein, c'était attendu. Non, mais l'équipe de France a fait le job.
Non, mais c'est surtout
que on présente toujours l'équipe de France de Didier Deschamps comme une équipe qui a du mal contre les équipes qui jouent bas et qui et quand on doit faire le jeu. Voilà. Donc là, ça a pas été le cas. Et j'ai trouvé, puisqu'on surveille particulièrement l'animation offensive, défensivement, on peut pas tirer trop d'enseignement de ce genre de match et de ce genre d'adversaire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du progrès. J'ai bien aimé la présence de Barcola côté gauche, Dembélé qui du coup fait une bonne deuxième mi-temps, passeur décisif et buteur. Voilà, il y a des enseignements à tirer, pas définitivement, mais en tout cas des points positifs, on va dire.
Des points positifs et effectivement cette nuit interminable. Carole, vous l'avez vécu. Bonjour Carole. Comment ça va Carole? Vous nous appelez au 32-16 depuis Vic-le-Comte dans le...
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous n'avez pas dormi vous?
Oh, ben alors, moi j'ai eu du mal, c'est un truc de fou ce match.
C'était un truc de fou à vivre.
Le troisième but, je ne l'ai pas vu.
Dommage pour Dembélé.
Je suis tombée, j'ai changé de chaîne en attendant que ça revienne, ouais. Ça ne revenait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais après, je suis tombée, j'ai plus rien vu.
Ah bon, mais vous êtes tombée quoi, de sommeil?
Ah voilà.
Non, bah après on avait de la chance, le raconter
à Carole du coup, Eric.
De quoi le match? La fin. Oh, superbe but de Dembélé, voilà, avec une belle passe d'Olysée. Mais on a eu la chance. Il était une fois en Amérique pour la 63e fois que j'ai regardé mon film préféré sur la chaîne juste après le match de l'équipe de France. Donc
exactement. Ça permettait de zapper sans trop de difficultés.
Exactement.
Carole, vous allez dormir aujourd'hui? Du coup, comment vous faites? Vous êtes retraitée, je crois.
Oui. 6h du matin pour ouvrir les fenêtres, quand même, pour la fraîcheur.
Mmh.
Hein, voilà.
Vous vous en sortez dans le Puy-de-Dôme?
Comment?
Vous vous en sortez dans le Puy-de-Dôme?
Il fait très très chaud, hein.
Ouais, très très chaud.
Il fait vraiment très chaud là, hein.
Bon, bah, prenez soin de vous, Carole, qui a donc veillé, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Eric, on va essayer de se projeter aussi sur la suite. Donc, le dernier match de poule, vendredi 21h, contre la Norvège, qui a battu le Sénégal cette nuit. Ça, ce sera la fin. Bon, c'est le match des coiffeurs, comme on dit. Hein.
Pas tout à fait. Je suis pas d'accord sur ce coup-là. C'est un adversaire qui est intéressant. Même si première place, deuxième place, j'ai regardé un petit peu. Soit on se retrouve du côté de l'Allemagne, Pays-Bas, Espagne, soit du côté du Brésil, Angleterre, Argentine. Donc à peu près le même niveau. Mais moi, je pense qu'il faut pas casser la dynamique. Les victoires appellent des victoires. L'équipe de France est en train de monter en puissance. Ça va être un test défensif ce coup-ci contre la Norvège. Et on n'a pas beaucoup de références. On sait qu'on est une défense centrale très forte. On a toujours des doutes sur les latéraux et sur le bloc défensif en général. On a vu Mbappé défendre hier soir à un moment donné ou plusieurs fois. Donc ça, c'est bon signe, mais il va falloir le faire contre des nations comme la Norvège. Donc non, pas match des coiffeurs.
Faut pas lâcher.
Non, il y a pas beaucoup de différence dans la suite de la compétition. Par contre, continuer à gagner et notamment contre cette équipe-là, ça peut faire que du bien pour moi.
Eric, cette nuit, et ça s'est terminé il y a quelques minutes, l'autre match qu'on a pu suivre sur RMC, c'était Jordanie-Algérie, et l'Algérie qui a fini par gagner 2-1 alors qu'elle était menée 1-0. Ça tient quasiment du miracle, hein.
Oui, les Algériens en grande difficulté, sauvés par le petit Gouiri, un petit Marseillais. Donc ça m'a fait plaisir de le voir marquer à la fin. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que voyez, l'Algérie a des difficultés. C'est peut-être plus la génération dorée qu'ils ont pu avoir il y a encore très peu de temps. Là c'est compliqué. Mais maintenant, en gagnant un match, il y a peut-être un petit imagine derrière, ils vont passer.
Ouais, et peut-être qu'ils vont passer. Merci beaucoup en tout cas Eric Dimeco, ancien international tricolore, consultant RMC, et on suit avec vous cette Coupe du Monde sur RMC et dans Pauline Matin. Il est 7h50 et dans un instant, c'est la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour
Pauline.
Des
routes qui fondent, des trains qui ne circulent plus face à la canicule, la France est-elle prête?
Non, elle n'est pas prête, c'est inquiétant, et le plus inquiétant je trouve, c'est qu'on n'en parle pas du tout.
Enfin, on en parle là quoi, mais après on n'en parle plus, puis après on se dit que ça va revenir. En tout cas, on en parle à 7h50 sur RMC avec vous. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Victor. Il n'y a pas que les Bleus qui ont subi une interruption hier soir.
Eh oui, là on est loin des Mbappé, des Olise, des Dembélé. C'était le concert parisien du groupe Iron Maiden, tout juste revenu du Hellfest et qui s'est subitement interrompu. Et pour cause, blackout complet à la Défense Arena. Alors, Fear of the Dark, c'est assez cocasse. Coupure de courant générale pendant une heure dans la plus grande salle d'Europe. Alors oui, ça a finalement repris, mais à cause d'un couvre-feu, figurez-vous, imposé par la salle. Pas moyen d'aller au-delà des 23h30. Alors le chanteur Bruce Dickinson l'a dit sur scène, il préfère Bercy.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
7h53, la voix de gauche sur RMC, c'est vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile. Des dizaines
Bonjour,
de
Pauline.
Trains supprimés, des gros retards sur certaines grandes lignes. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui incite les salariés à privilégier le télétravail. Et encore ce matin, des mauvaises nouvelles du côté des RER. Il n'y a pas que les êtres vivants qui souffrent de la chaleur. Nos infrastructures souffrent aussi, Cécile.
Oui, elles souffrent beaucoup parce qu'elles sont pas du tout faites pour ces températures, elles sont pas du tout faites pour le climat qui change. Notamment les rails. Les rails, en fait, ils sont posés à une certaine température, ils peuvent se dilater, c'est-à-dire quand il fait chaud, l'acier grossit. Sauf que c'est assez mécanique. Au-delà d'une certaine température, il tient plus, il craque et il fait des sortes de bulles, de poches, et c'est ce qu'on appelle le flambement. Et du coup, vous imaginez, si des trains roulent sur des rails qui sont plus droits, c'est dramatique. Mais il y a aussi les caténaires qui se détendent. Et puis quand ça n'est pas la chaleur et qu'il y a beaucoup trop de pluie, ça fait des glissements de terrain, ça fait le ballast, les cailloux sous les voies qui s'en vont, ou des arbres qui tombent sur la voie. Vous voyez que le tableau est quand même compliqué.
Donc on va faire quoi ? On va prendre la voiture ?
Eh ben, si on prend la voiture, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que quand il y a une grande chaleur, la route souffre de deux problèmes. C'est des mots un peu techniques, mais on va très bien les comprendre. Ça s'appelle le ressuage et l'ornirage. En gros, le bitume, il devient tout liquide, il remonte, donc vous pouvez glisser dessus. Déjà, c'est très dangereux. Et ensuite, s'il y a un camion qui passe, ça fait des grosses ornières. Et si c'est sur une route rapide ou une autoroute, vous imaginez le danger. Mais par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles. Donc, vous voyez bien les maisons qui se fissurent. Ça fait pareil avec les routes et ça peut faire des grandes coupures. Le CEREMA, qui est le centre qui analyse ces infrastructures, dit que des milliers de kilomètres sont menacés.
Avec une autre question aussi, c'est la question des centrales nucléaires. Est-ce qu'elles vont supporter la chaleur ?
C'est globalement le réseau électrique. Donc, et ça, c'est, j'entends, vous avez vu, pendant plusieurs jours, on a dit non, mais c'est pas grave, on n'a qu'à mettre des climatiseurs qui fonctionnent à l'électricité. Le problème, c'est que les centrales nucléaires souffrent de la chaleur. Si l'eau est au-delà de 28, elles ne peuvent plus pomper de l'eau pour se rafraîchir. Donc, c'est un énorme souci parce qu'une centrale nucléaire, ça fonctionne avec beaucoup d'eau. Donc, si les fleuves s'assèchent, c'est compliqué. Mais le réseau électrique lui-même souffre de la chaleur. Au-delà d'une certaine température, les lignes à très haute tension, on est obligé de baisser la puissance parce qu'elles ne peuvent plus non plus se rafraîchir suffisamment. Et les transformateurs peuvent eux aussi souffrir gravement de la chaleur avec des risques d'incendie. Donc on voit bien que le réseau électrique aussi est vulnérable.
Alors tout ça, c'est quand même assez apocalyptique ce que vous nous racontez. Est-ce que personne n'a anticipé ces questions-là ?
Alors, d'une certaine manière, oui, et d'une autre, non. Oui, parce que tout ce que je vous raconte, c'est basé sur des études scientifiques, des études du CEREMA, des études des ministères. Tout ça est très documenté, ça figure aussi dans le plan national d'adaptation au changement climatique, mais on n'a pas du tout décidé ni mis les moyens politiques pour justement agir. En sachant que sur certains sujets, je parlais des gonflements d'argile, on peut pas faire grand-chose. Donc on est obligé de surveiller, de faire des travaux de réparation. On va devoir beaucoup plus faire attention aux effondrements en montagne aussi, donc il faut mettre des moyens sur l'adaptation au changement climatique. Sinon, en fait, c'est toutes nos infrastructures qui vont s'écrouler pour une raison très simple. Elles ont été conçues, un peu comme nous d'ailleurs, l'être humain, avec un certain climat assez stable. On a mis des marges de sécurité, mais ces marges de sécurité, elles sont explosées par ce qui se passe. Par exemple, un autre exemple, les ponts, ils ont des joints de dilatation, mais si vous dépassez certaines températures, ces joints de dilatation, ils pètent et on ne pourra plus utiliser les ponts. Donc là, tout le monde devrait se réveiller. J'ai déjà dit sur la question de la santé jeudi dernier qu'il fallait une mobilisation générale. Mais en fait, c'est la santé de notre vie collective, des humains, mais aussi tout ce qui nous entoure et toutes les infrastructures dont il faut prendre soin maintenant, tout de suite.
Donc mettre en œuvre un grand plan national d'adaptation. Merci beaucoup Cécile Duflo qui appelle à cette prise de conscience. Cécile Duflo, ancienne ministre et voix de gauche sur RMC. Demain, ce sera la voix de droite Louis Sarkozy. D'ailleurs, tiens, à 7h57, notez-le, dans un instant, ce sera la météo avec Géraldine Devory. Et le journal de 8h à la une, c'est 54 départements en vigilance rouge canicule. Nous serons avec les voyageurs qui galèrent à cause de ces températures extrêmes dont nous parlait à l'instant Cécile. Juste après le journal L'Économie, avec vous Emmanuel Le Chip.
Bonjour.
Emmanuel, Cécile aussi commençait à l'évoquer, à cause de la chaleur, il y a les factures d'électricité qui pourraient flamber.
Oui, alors on risque des coupures et je vous dirai combien aussi tout ça va nous coûter, hein, la canicule, si vous utilisez un ventilateur, un climatiseur, combien en plus sur la facture.
Combien en plus sur la facture, c'est très précis les chiffres sur RMC, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 et la canicule partout, Géraldine.
Et ça continue avec 54 départements en vigilance rouge pour cette canicule, vraiment de l'Atlantique jusqu'à la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne. 35 autres départements sont en vigilance orange et les 7 derniers sont en vigilance jaune. Donc oui, ça concerne tout le monde. Avec une nuit qui a été étouffante, près de 27 degrés au plus frais du côté d'Angoulême. 26 par exemple à Poitiers. Cet après-midi, on devrait atteindre les 43 degrés à Cognac. 42 pour Bordeaux, Nantes, 40 à Clermont-Ferrand, Toulouse, La Rochelle, 39 à Paris, 38 à Lyon, Grenoble, Nancy, 37 à Marseille ou à Brest, 33 degrés à Lille, avec évidemment beaucoup de soleil, des orages aussi qui pourront éclater parfois assez fort sur le sud des Alpes cet après-midi, et ça va se poursuivre puisque jusqu'à jeudi, on n'aura quasiment aucun changement de température.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, merci d'être avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz, de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le réseau ferroviaire surchauffe, vous allez voir, avec les très fortes chaleurs, des heures de retard sur de nombreux trains jusque dans la nuit, des suppressions jusque dans le métro à Paris pour aujourd'hui. On va revenir sur les suites de l'affaire Liana au lendemain de la remise du rapport sur les défaillances dans cette affaire. 134 personnes, vous verrez, ont été placées en détention provisoire ces derniers jours pour d'autres affaires qui ont été réexaminées. Et puis on va prendre des nouvelles des Bleus de retour retour à Boston ce matin à la Coupe du Monde après leur victoire 3-0 cette nuit contre l'Irak dans un match interminable qui a été perturbé par les orages.
Ça craque dans les transports à cause de la chaleur.
Au lendemain, oui, d'une journée marquée par des pannes pour des TGV qui avaient plusieurs heures de retard et qui sont arrivés jusque dans la nuit à Paris, que ce soit à Gare de Lyon ou Gare Montparnasse. Des retards qui continuent d'ailleurs pour les premiers TGV du matin vers le sud-ouest et encore donc des transports supprimés dans toute la région parisienne. RER, train de banlieue et désormais donc 4 lignes de métro touchées. C'est la nouveauté du jour. Caroline Renaud, vous êtes en direct pour RMC ce matin de la Gare du Nord où passent toutes ces lignes avec des usagers donc qui s'accommodent.
Oui, comme ici dans le RERD, trafic ralenti et pas de climatisation. Et on le sent dès qu'on monte à bord. Hein. L'air est lourd, étouffant. L'impression d'avoir même quelques degrés de plus qu'à l'extérieur. Alors certains passagers s'éventent avec ce qu'ils peuvent. D'autres ont leur bouteille d'eau. Des conditions pénibles et surtout inadaptées, selon Nadège.
On suffoque en fait. Il fait chaud, les trains sont bondés. Sans compter ceux qui sont supprimés, qui font encore retarder le trajet. Il y a plus de monde, pas de climatisation. Quand on compare le prix du ticket, 90 euros, presque 100 euros le moins, pour avoir de telles conditions dans les trains, c'est un enfer en fait pour les usagers.
De son côté, la région explique devoir supprimer des trains pour protéger les installations de la chaleur. Ali, on a fait les frais ce matin, 30 minutes de retard.
J'ai eu un train supprimé tout à l'heure. C'est-à-dire là, j'arrive en retard au travail. Je prends la voiture, c'est mieux. Il y a la clim direct dedans. Là, j'ai pris ma demi-journée au cas où. Ouais, je m'adapte parce qu'il fait trop chaud.
Et s'adapter, il faudra encore le faire quelques jours. La présidente de région, Valérie Pécresse, conseille aux Franciliens d'éviter de se déplacer autant que possible.
Caroline Renaud en direct dans les transports ce matin à Paris, où on relevait une température de 24 degrés à 5 heures du matin. C'était même 28 à Poitiers avec un ressenti 31, 26 au Havre avec un ressenti encore plus élevé de 33 degrés. Là, ce que je vous donne, c'est des températures à 5 heures du matin au lendemain d'une journée qui a été la troisième plus chaude que l'on ait jamais mesurée. Et alors, Géraldine de Maury, on vous écoute attentivement ce matin. On ne sait toujours pas quand ça va se terminer.
Mais non, ce qu'on sait, c'est que entre aujourd'hui et jeudi, on va vraiment avoir les trois journées les plus chaudes de l'épisode. Probablement même les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France. Alors, on a quand même un petit espoir pour la fin de la semaine avec un rafraîchissement qui devrait arriver par le nord-ouest. Attention, hein, je suis pas du tout en train de vous parler d'une fin de canicule, mais d'une canicule moins intense. Samedi, par exemple, on devrait aller de 26 degrés sur la pointe bretonne à 38 degrés encore dans l'est, en passant par 30, 32 degrés pour Paris. La semaine prochaine, en moyenne, on devrait être à 30 degrés sur la moitié nord les après-midi, mais avec des minimales encore en moyenne de 20 degrés, donc toujours des nuits qui seront difficiles. Pour la moitié sud, on sera toujours à 34 degrés de moyenne en journée, donc ce qui signifie qu'on ne sortirait toujours pas de la vague de chaleur commencée le mercredi 17 juin.
Et encore une journée sans école pour énormément d'enfants. Là, ce mardi, il y en avait 1350 qui étaient fermés totalement hier et plus de 4000 avec des aménagements. La France qui n'est pas assez préparée à la canicule, auquel il faut ajouter le vieillissement de la population. C'est l'alerte ce matin d'une association spécialisée dans les conséquences du réchauffement climatique. Au mieux, on s'en accommode, comme ici à Bordeaux, où des personnes âgées peuvent aller trouver de la fraîcheur dans des maisons de quartier climatisées. Des échoppes, comme on dit à Bordeaux, où s'est rendu Marion Gauthier pour RMC.
Fin du repas, le café est servi.
Vous savez que la mairie nous a donné l'autorisation de vous laisser ici jusqu'à 18h30.
Ah, oui. Plus de temps au frais, sourire de Christine.
C'est meilleur ici, hein. Parce que chez moi, là, il fait 28 et quelques. Hein.
Ça fait un bien.
Souffle Bernadette.
Physiquement, déjà, et ça rassure. On a peur de la chaleur.
Quand il fait très chaud, on ferme tout. On vit quasiment dans le noir, on se sent isolé. D'avoir un lieu comme ça, climatisé, mais c'est indispensable.
L'énergique Evelyne a tenté de parler de ce refuge à des voisins.
On a distribué des flyers, vous savez.
Difficile de convaincre tout le monde, acquiesce Laurence Navaille, l'adjointe au maire.
La difficulté, c'est d'appeler tout le monde, ou d'aller voir tout le monde, ou d'envoyer un SMS à tout le monde. Faut-il encore que la personne reçoive le SMS et le lise?
Et pour ceux à qui le trajet fait peur, des bénévoles de la métropole jouent les taxis jusqu'à cette autre salle climatisée, projection d'un concert.
J'évite de marcher dehors ou de faire du vélo dehors quand il y a un tel ensoleillement. Je suis à disposition de mon aimable chauffeur.
Départ prévu après au moins 2 heures au frais.
Oh, et, alors,
et l'opéra terminé.
Et alors, et songez bien, oui, songez encore.
Une enquête est ouverte à Carpentras, dans le Vaucluse, où deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans une voiture. C'était hier après-midi, drame épouvantable, sans doute en échappant à la vigilance de leur mère qui rentrait des courses. Alors, en plus de l'alerte pour la chaleur, les très fortes chaleurs, il y a les risques d'incendie à un niveau élevé désormais dans 28 départements. Ça n'arrête pas d'augmenter. 11 départs de feu rien qu'il y a dans le département d'Allier, 3 dans l'Aude. Ce département meurtri l'année dernière, chacun s'en souvient, avec le drame des Corbières. Il y aura un avant et un après. Ça, c'est ce que promet le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, au lendemain de la remise du rapport sur les défaillances dans l'affaire Liana. Il y a maintenant plus de 3 semaines, ce rapport pointe du doigt des défaillances individuelles, des sanctions d'ailleurs sont prises contre une magistrate et 2 gendarmes, mais aussi structurelles, à savoir un manque de moyens, contrairement à ce que disait le gouvernement. Romain Houg, pour RMC, c'est la première déflagration, en quelque sorte, en attendant la fin du réexamen des 70 000 plaintes pour violences sexuelles.
Oui, le gouvernement tente de montrer que les premiers enseignements ont été tirés après l'affaire Liana, et en particulier que le réexamen en urgence de ces 70 000 dossiers de plaintes touchant des enfants porte ses fruits. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui en a fait un premier bilan hier soir au JT de TF1. Et le voici, depuis lundi dernier, 1243 gardes à vue dans des affaires qui concernent directement des atteintes sur mineurs. 134 personnes ont été placées en détention provisoire. Ce sont des individus en attente de procès, mais la justice estime qu'il y a les concernant un risque de récidive, de fuite ou de pression sur d'éventuels témoins. Gérald Darmanin, qui refuse toujours de démissionner malgré les appels de plusieurs de ses opposants politiques, il reconnaît toutefois devoir se remettre en question, car les dysfonctionnements constatés jusque-là reposent peut-être, je le cite, sur une mauvaise organisation.
Romain Houg pour RMC à 8h07. Je vous propose de prendre des nouvelles des Bleus à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors pour ceux qui tentaient de dormir cette nuit, en tout cas avec la chaleur, sachez que les Bleus se sont qualifiés pour les 16e de finale en battant l'Irak 3-0 cette nuit à Philadelphie, dans un match qui a été perturbé, très perturbé même par les orages. Le match a duré bien plus longtemps que prévu, avec une mi-temps longue de 2 heures. Jean-Louis Tour, on a vécu ça en votre compagnie sur RMC, et vous nous dites que là, ça y est, les Bleus sont enfin de retour à leur QG de Boston.
Oui, il y a 1h30, ils ont atterri à Boston sans être gênés cette fois par les orages dans leur vol. Ils vont pouvoir se reposer en sachant qu'on a décalé d'une heure l'entraînement qui était prévu à 21h30 heure française. Ce sera 22h30 pour leur laisser une heure de rab pour se remettre donc de cette soirée à rallonge et préparer la Norvège vendredi à 21h avec l'objectif de la première place. Un nul ou une victoire l'assurerait à la France. C'est important à double titre. Au niveau logistique, tout d'abord, ça permettrait de rejouer en 16e, 8e et quart de finale dans les 3 mêmes villes qu'au premier tour, New York, Philadelphie et Boston, là où tout le monde a ses marques. Et sportivement, une première place, ça offrirait un 3e de groupe et donc un 16e abordable avant de peut-être affronter l'Allemagne en 8e. Ce match de la Norvège pourrait aussi confirmer la montée en puissance des Bleus contre un adversaire à 2 victoires, tester aussi la défense contre Erling Haaland, l'un des meilleurs attaquants du monde, et continuer pour Kylian Mbappé son match à distance avec Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Les deux ont inscrit un doublé hier. Messi compte désormais 18 buts, seul en tête. Et Mbappé en est à 16.
C'était la soirée, la nuit des doublés, puisque Haaland également a marqué un doublé avec la Norvège qui a battu le Sénégal 3-2. Un petit peu plus tôt ce matin, c'est l'Algérie qui a battu la Jordanie 2-1, qui reste d'ailleurs dans la course à la qualification. Et ce soir, on va revoir le Portugal de Cristiano Ronaldo à 19h contre l'Ouzbékistan.
C'était le journal de Quentin Vinay, c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, est-ce que la canicule menace la robustesse de notre réseau électrique? Est-ce que ça va tenir?
Alors, il y a un risque immédiat, nous dit Enedis, le gestionnaire de la distribution d'électricité. C'est des pannes, voire des coupures liées à la chaleur du sol, chaleur du sol qui fragilise les câbles les plus anciens. Les câbles les plus anciens, c'est 15 000 km sur les 350 000 km de réseau existant. Ça concerne plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Et d'ailleurs, on a déjà vu quelques coupures spectaculaires dans ces grandes villes. Après, il y a une inquiétude, mais qui est moins immédiate. Mais quand même, quand on regarde les tendances, ça inquiète un peu. C'est un, il va y avoir une augmentation de la consommation à cause de la canicule. Il faut savoir qu'une journée de canicule par rapport à une journée d'été normale, ça nécessite 3 à 5 réacteurs nucléaires de plus. Or, ces réacteurs nucléaires, à cause de la température élevée, ils risquent d'être amenés à réduire leur production, voire à l'arrêter, parce que vous savez qu'un réacteur nucléaire, c'est refroidi par la mer ou par les rivières, et que on ne peut pas aller trop loin dans le réchauffement des rivières, bien entendu. Et puis alors, figurez-vous aussi que la canicule, ça réduit la production d'électricité renouvelable, parce qu'évidemment, il y a moins d'eau dans les barrages. Et puis alors, surtout, ce qui peut être contre-intuitif, c'est qu'au-delà de 35 degrés, le rendement des panneaux photovoltaïques baisse.
Moi, je m'étais dit, plus il fait chaud, au moins...
Non. Idéal des panneaux photovoltaïques, c'est autour de 25 degrés. Voilà, au-delà, ça baisse un peu. Donc voilà, on risque d'avoir ce déséquilibre entre production et consommation si jamais la canicule devait durer trop longtemps.
Au final, cette canicule, elle va nous coûter combien ?
Alors, une journée entière de climatiseur mobile en fonctionnement, ça coûte entre 2 et 5 euros. Ça peut représenter jusqu'à 210 euros de surcoût sur la facture d'électricité annuelle, nous dit Selectra. Si vous avez un logement mal isolé, vous utilisez un appareil mobile, ça peut alourdir votre facture mensuelle de près de 90 euros, sachant que la hausse du tarif de l'électricité début août ajoutera déjà 7 à 26 euros à la facture annuelle, nous dit le site Radin Malin. Radin Malin, oui, c'est un site où vous pouvez trouver.
C'est assez explicite,
tout un tas d'infos.
Ça dit, bien ce que ça
fait. Et l'arme la plus efficace contre la canicule, à la fois à l'achat et à l'usage, c'est de loin le ventilateur. Puisque un ventilateur, ça ne vous coûte que 8 euros par an, selon l'ADEME, en termes de surcoût d'électricité.
Donc, les chiffres du jour, comme chaque jour, Emmanuel, est-ce que ça continue à baisser ?
Mais oui, ça continue à baisser. Le gazole, on est à 1,91 € le litre. Désormais, on est à 7 centimes de baisse en une semaine. Même chose pour le sans-plomb 95, 5 centimes de baisse en une semaine à 1,90. Bon, pour tous ces carburants, on est quand même encore 20 centimes au-dessus des niveaux d'avant la guerre en Irak. Le pétrole, 77 $ le baril, ça baisse. J'ai dit quoi ?
Vous avez dit Irak, mais l'Irak, c'était Fatou Bleu cette nuit.
Je mélange un peu. 77 $ le baril, c'est le plus bas depuis le début mars. Et le gaz, on est à 41 € le mégawatt-heure. C'est très simple, hein. Le gaz, on est à 40, on était à 30 avant le conflit, on est monté jusqu'à 50.
On est à peu près à mi-chemin, quoi. À mi-chemin. Merci Emmanuel Le Chip, 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. Il y a Arnaud Demange qui arrive avec ses blagues à 8h30. Mon invité, ce sera le patron des patrons, Patrick Martin. Alors évidemment, cette question, est-ce qu'il faut un congé climatique comme le proposent les écologistes ? Quel impact de la canicule sur l'économie ? J'interroge le patron des patrons qui va nous parler aussi salaire et pouvoir d'achat. Il a la solution, voilà ce qu'il dit en tout cas, pour réussir enfin à rapprocher le brut du net. Il nous le dit donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura le choix de la rédaction. Les loyers impayés explosent. Comment mieux aider les locataires en difficulté, reportage en direct à 8h50. Et puis toutes les infos après la qualification des Bleus pour les 16e de finale et la Coupe du Monde. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Exactement. 8h15, Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline. Bonjour Élise.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Victor.
Bonjour.
Vous avez bien dormi ?
Non.
Vous avez regardé la France face à l'Irak ?
Oui.
Parce que le match a commencé à 23h, ça s'est terminé à 3h du mat. Moi, je me suis endormi même pendant la Marseillaise. J'étais à marchons jusqu'à la chambre,
voilà.
Pour faire un roupillon. Rompichon.
J'aime beaucoup ce rompichon.
Et après, j'ai croisé Jérôme Roten là, dans les couloirs, ouais. Parce qu'il a enchaîné avec Norvège-Sénégal. Il vient de finir Jordanie-Algérie, c'est un zombie. One, two, three. Vivement que je retrouve mon lit.
Voilà.
Le match a été interrompu pendant 2 heures à cause des orages. Ça va un peu loin, là, les pauses fraîcheurs.
Pour ouais,
de la pub. Sur M6, ils n'avaient même pas assez de pubs. Ils ont été obligés de déstocker toutes les années 80. On a retrouvé Germaine de Lustucru, Gros Quick, Monsieur Malabar. Il y a Malabar. Il y avait Johnny qui chantait. Richard Berry a mangé des sveltesses. Il y avait des vieilles pubs pour des radios. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Retrouvez-moi à partir de septembre sur Radio Monte-Carlo pour un grand entretien politique. Et il y avait même la pub où il y a une vieille qui se jette sur une table.
J'adorais Swift, ou je sais plus là.
Mais pas ça tous les jours.
Oh là, j'adorais.
Marie-Pierre Cazet, un truc comme ça. Je vois que Élise et Victor, ils sont largués.
Moi, j'ai beaucoup aimé cette pub.
Jusqu'à Johnny, ça allait.
Mais la télévision était en noir et blanc à l'époque.
Vous
êtes insolente.
Donc les Bleus sont qualifiés pour les 16e de finale. Le prochain match contre la Norvège, il comptera à peine en fait. On pourrait même faire jouer Marcus Thuram en attaque pour rigoler, c'est pour le fun.
Oh,
allez.
Non.
Hier, Deschamps l'a fait rentrer hein, pour une minute en lui disant « Allez, ça te fera un souvenir, c'est sympa.
» Bon, bah en France, c'est la canicule. Hein.
C'est ma journée de Johnny.
Ouais, yeah.
Ouais, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Alors, plus de 2000 écoles sont fermées, mais il y en a encore plein qui sont ouvertes. J'écoutais tout à l'heure le Morning avec Élise Dangean et Victor Pourchet, qui en parlaient d'ailleurs. Et vous êtes bien dans le Morning RMC. Et aujourd'hui, allez-vous mettre vos enfants à l'école, Victor ? Bonjour Élise. Et oui, avec la canicule, les enfants cuisent. Alors demandez bien à la maîtresse la cuisson de votre enfant. Bleu, saignant, à point ou bien cuit. En tout cas, c'est bien. Si les enfants ne sortent pas de chez eux, il n'y aura pas de nouveau scandale dans le périscolaire parisien.
Voilà. Oui, pratique, la canicule,
le meilleur allié des bambins. Et puis le gouvernement continue à donner des conseils, Victor. Et oui, car il fait extrêmement chaud. Alors, pour avoir moins chaud, allez dans un endroit où qui fait moins chaud.
Voilà.
Et ça, c'est si moi, vous avez soif, buvez pour avoir moins soif. Merci Victor. Il n'y a pas de quoi. La maire de Paris a annoncé un achat massif.
Lui, hein, c'est le maire maintenant. C'est,
ah oui, le maire, oui. Pardon. Le,
non,
en plus, je l'ai marqué,
changé,
le maire.
Il s'appelle Emmanuel.
Il s'appelle Emmanuel Grégoire. Mmh. Il a annoncé un achat massif de climatiseurs pour les écoles. Il y en aura un par école pour rafraîchir une pièce. Mmh. Alors, du coup, il y aura des rotations, que chaque classe puisse y aller à tour de rôle. Mmh. Une sorte de pause fraîcheur, vous voyez, comme à la Coupe du Monde. Et sortie de la classe de CM2, rentrée de la classe de maternelle. De toute façon, je trouve ça pas con, moi, ces fermetures d'école. C'est bien, comme ça, les enfants, ils souffriront pas de la chaleur en classe, ils souffriront de la chaleur à la maison.
Voilà.
C'est quand même mieux. Pauvres enfants, hein, quand même. Vous voyez, on a beaucoup critiqué Véronique Courgeot.
Oh non,
mais...
oh non.
Oh non.
T'es peut-être juste en avance hein, sur nous tous.
Le résistant Marc Bloch entrera au Panthéon.
Ouais, au début j'ai mal lu, c'est Marc Bloch. Moi j'avais noté Black Bloch. Je me suis dit, ah ouais, ils rentrent dans le Panthéon aussi. Ils étaient déjà rentrés dans l'Arc de Triomphe pendant les Gilets jaunes. Ils sont partout.
C'est
en
dingue.
Dites donc, autant nous les vivants on galère depuis que Macron est président, autant pour les morts, c'est grand luxe là.
Oui.
C'est vraiment à tous les étages, hein, de la panthéonisation en veux-tu, en voilà. T'es amené en voiture, en caveau climatisé, personne ne peut te canaliser.
Oh, et pas mal.
C'était gratos.
Ouais.
Et il va faire très chaud cet après-midi. Alors, sous 40 degrés, c'est pas une panthéonisation, hein. C'est une crémation spontanée. Oh. Français, c'est avec émotion que nous sommes réunis. C'est moi ou ça sent le plastique brûlé ? Non, ça sent le brûlé. Rachida, viens te mettre à l'ombre. Tu fonds là, on dirait Patrick Juvet.
Mais monsieur le président, je ne suis pas Rachida, c'est moi, c'est Jack Lang.
Donc Macron panthéonise à tour de bras et il reste 11 mois de présidence. Je ne sais pas qui il va mettre dedans à la fin, il ne va plus rester plus grand monde à mettre au panthéon. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ne pas faire rentrer n'importe qui, quoi. Rentre ici, Patrick Bruel.
Oh,
terrible. Mais je suis pas mort. Toi, non, mais ta carrière, elle l'est. Bon, ok. Il y a des gonzesses à l'intérieur. Simone, j'arrive. Dites à Marie Curie que je suis plus chaud qu'un atome en fusion. C'est fou, il peut pas s'en empêcher. Hein. Allez, bonne panthéonisation. À demain.
Merci beaucoup, Arnaud.
On a bien rigolé.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h21, dans un instant le face-à-face, mais d'abord vos réactions à la chaleur, Victor.
Et on a beaucoup de gens qui nous envoient leur relevé de température, vous pouvez le faire sur le WhatsApp au 06 12 424 424, et effectivement le thermomètre grimpe. On a d'abord Jérôme qui nous fait un petit retour sur hier à Nantes. Écoutez bien, il était 16h30, il a regardé la température, il faisait 47 degrés. Qui dit mieux, nous dit Jérôme. Et bien peut-être Kevin qui ce matin était à Alban dans le Tarn, 4h du matin déjà, 25 degrés, et on a Léo qui essaye de trouver des solutions comme il le peut, notamment en adaptant son quotidien. Comment se rendre au travail ? J'essaierai de ne pas être dans les transports, mais je pense que ça va être assez compliqué, et j'espère surtout que je tomberai sur des trains climatisés.
Voilà pour vos messages. Portez-vous bien, restez au frais, écoutez RMC et regardez BFM TV, puisque dans un instant, je serai sur RMC et BFM avec mon invité pour le face-à-face. C'est le patron des patrons, Patrick Martin, président président du MEDEF. Évidemment, je lui poserai la question de la canicule et du coût de la canicule aussi, la responsabilité des patrons pour la sécurité de leurs employés. Mais plus globalement, Patrick Martin, eh bien, il a présenté un document dans lequel il considère que la France, eh bien, tout simplement, elle a décroché. La France est déclassée et il a la solution, notamment à un travail qui paierait mieux, rapprocher le brut du net. Il nous explique comment ça se passe dans un instant. On parle salaire sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du MEDEF. La France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Voilà le constat quasiment sans appel que vous faites de notre France. Et vous avez des solutions, vous promettez, et c'est presque une campagne électorale, que vous avez les moyens de rapprocher le net du brut, de payer mieux, que le travail paye mieux. On va y venir dans un instant, mais d'abord, évidemment, la situation dans laquelle la France aujourd'hui, journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Les entreprises, est-ce qu'elles tournent au ralenti? Quel est l'impact sur l'économie?
Il y a quelques secteurs qui, au contraire, sont surchauffés, si j'ose le terme. Évidemment, tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces, etc. Mais enfin, c'est très minoritaire. Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et dans, au cas par cas, moins de travail.
Ça aura des conséquences? Parce que quand vous dites effectivement qu'il faut protéger ses salariés, les chefs d'entreprise ont la responsabilité des conditions de travail de leurs employés, et donc en ce moment, parfois d'adapter les horaires, voire même de dire aujourd'hui vous n'avez pas bossé.
Absolument. Enfin, quand par exemple le télétravail est possible, mais ça suppose que les salariés en télétravail aient eux-mêmes une climatisation, en tout cas.
Et qu'ils soient mieux chez eux qu'au boulot. Hein.
Et puis il y a le problème des transports en commun, enfin beaucoup de choses. L'année dernière, l'INSEE, on a eu quelques pics de chaleur l'année dernière. Mmh. L'INSEE n'avait pas su mesurer si ça avait un impact direct sur l'activité. Mais par exemple, les assureurs ont chiffré que dans les 5 prochaines années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 milliards d'euros à la France. Donc il faut s'y préparer et il faut se protéger.
Qu'est-ce que vous pensez du congé climatique?
J'en pense pas de bien parce que c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ça n'exclut pas qu'on prenne des mesures instantanées de protection contre la chaleur, le cas échéant contre le froid. Enfin, on va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de ces dérèglements climatiques et puis pour décarboner notre économie. Ben, si on travaille moins, on produit moins. Or, le problème de fond de la France, c'est qu'on ne produit pas assez. Donc un congé climatique, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire.
Donc dans les faits, vous dites, au cas par cas, les patrons s'adaptent et disent, aujourd'hui on ne va pas bosser, on fait attention, on adapte les horaires. Mais l'idée d'avoir vraiment 5 jours de congé climatique qui sont officiellement rajoutés dans le Code du Travail, vous êtes contre?
Totalement contre. Totalement contre, à nouveau, parce que ça nous priverait d'une capacité d'investissement si nécessaire pour prévenir les conséquences de ce dérèglement climatique, et parce que d'une manière générale, mais c'est une philosophie, je dirais, de qui promeut ce congé climatique, la décroissance n'est certainement pas la solution.
Ça vient de Marine Tondelier, parti des Verts. Pour vous, c'est pas du tout la bonne logique.
C'est chronique. Si on les écoute, il faut toujours moins travailler. Moi, je constate que l'aspiration majoritaire, largement majoritaire et chronique de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Il faudra qu'on m'explique comment on peut gagner plus en travaillant moins.
Patrick Martin, justement, vous le dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Pour vous, est-ce que c'est fichu ou est-ce qu'on a les moyens quand même de sortir de ce marasme?
Ah, c'est pas du tout fichu. On a produit hier un document.
Vous êtes venu avec un document, ça s'appelle Carte sur table.
Qui dresse un diagnostic d'un certain nombre de chapitres, je dirais. Mais effectivement, du décrochage que l'Europe a par rapport au reste du monde, la Chine, les États-Unis en particulier, sur les plans technologiques, financiers, industriels. Et puis la France à l'intérieur même de l'Europe. Est-ce que ça aboutit à une résignation? Absolument pas. Nous, on est convaincus que la France d'abord a des talents incroyables, qu'elle ne sait pas à ce jour les mobiliser, mais qu'on doit le faire. Et donc, on fait en regard de ces diagnostics un peu inquiétants des propositions. Je cite juste un chiffre. Dans les années 60, il fallait 16 ans à un Français pour doubler son pouvoir d'achat. Dorénavant, il faut 106 ans. Alors, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient pas le moral, qu'ils aient des problèmes de pouvoir d'achat. Nous, on veut réunir les conditions, elles existent, pour redonner du pouvoir d'achat par l'emploi, par le travail, de sorte que tout le monde ait la patate.
Pour que le travail paye, vous dites que vous avez un grand plan pour les salaires, ça marcherait comment ?
Alors, on a deux sujets, le niveau de la protection sociale et le financement de la protection sociale. Le financement de la protection sociale, c'est un cas unique au monde, repose beaucoup sur les entreprises et sur les salariés. Donc on a fait effectivement des propositions qui permettraient d'améliorer les salaires nets dans les entreprises, d'alléger les charges pour les entreprises pour qu'elles gagnent en productivité, en compétitivité, et puis qu'on génère de la croissance et de l'emploi. Je suis probablement déjà trop long, mais le plan
qu'on propose
générerait 260 000 emplois.
Je veux comprendre comment ça marche. Alors, vous nous promettez effectivement 260 000 emplois. Alors, j'avoue que moi, maintenant, je juge sur preuve, parce que je me souviens d'un de vos prédécesseurs qui avait ce fameux pins avec marqué 1 million, qui promettait 1 million d'emplois. On ne les a pas totalement vus venir, quand même. Les 260 000, vous pensez vraiment qu'ils seraient là ?
À mon ami Pierre Gattaz, c'est lourdement trompé, parce qu'en réalité, ce sont 2 millions d'emplois qui ont été générés par la politique de l'offre que tout le monde stigmatise maintenant, qu'on est en train de détricoter à bas bruit, mais qui a donné en termes de croissance, d'attractivité, d'emploi et de pouvoir d'achat, d'excellents résultats. Donc Pierre Gattaz avait raison.
Pour vous, il avait raison. Ouais. Bon, mais vous, les 260 000, ils s'ajouteraient à tout ça sans qu'il y ait des pertes d'emplois par ailleurs ?
Mais il y aura de toute façon des pertes et des créations d'emplois. L'économie est en train de muter à toute vitesse, dont autour de ces phénomènes climatiques, l'intelligence artificielle, etc., etc. En net, ça générerait 260 000 emplois.
260 000 emplois en net. Et justement, le net et le brut, cette baisse massive des cotisations, évidemment, il va quand même falloir trouver de l'argent ailleurs. Pour vous, il y a notamment deux pistes. La CSG, les retraités les plus riches, et de l'autre côté, la TVA, qui là serait pour tout le monde 2 points de plus.
Nous, on demande le transfert de 60 milliards de cotisations sociales, maladie et famille, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises et les salariés qui financent un système dit de solidarité. À la fin, le gain pour les entreprises serait de 16 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État économiserait 30 milliards sur les fameuses aides aux entreprises. Ça veut dire que les salariés gagneraient 10 milliards, parce qu'on prendrait en charge une partie de leur cotisation en retraite, je ne rentre pas dans le détail, et effectivement, il y aurait un certain nombre de dispositifs qui sont favorables aux retraités aisés, j'insiste, aux retraités aisés, et par ailleurs, un transfert...
À partir de quand vous considérez qu'un retraité est aisé ?
À partir de 2000 euros de pension mensuelle.
Donc ce ne serait que ceux qui gagnent plus de 2000 euros de pension mensuelle qui contribueraient davantage.
Et un transfert effectivement vers le taux normal de TVA. J'insiste sur deux points. Le premier, ici et là, on me dit TVA sociale, c'est scandaleux, moi vivant.
J'ai envie de vous dire que pour le coup, c'est déjà venu et ça a rarement trouvé écoute chez les politiques,
mais
la
existe.
Fameuse TVA sociale.
Elle est en place déjà. Il y a déjà 50 milliards de protection sociale qui sont financés par la TVA et 130 par la CSG. Donc, en faire une affaire de principe, c'est de la mauvaise foi. Ça existe déjà. Ensuite, nous, on pense qu'il ne faut pas toucher au taux de TVA réduit. C'est l'essentiel des achats alimentaires. Enfin, il n'y a pas de TVA sur les loyers. Les deux postes de dépenses principaux des ménages modestes, c'est les loyers, l'alimentation.
Et ça,
donc zéro impact.
L'alimentation, en tout cas le panier effectivement des denrées nécessaires, lui, ce serait une TVA réduite qui resterait réduite.
Le même taux.
Il n'y aurait pas d'augmentation sur le reste, en revanche 2%. Vous pensez vraiment
2% qui nous mettrait à peine dans la moyenne européenne.
Mais vous pensez vraiment, Patrick Martin, qu'un politique, là, à un an des élections, va s'emparer de votre carte sur table, comme vous dites, de vos propositions ?
C'est évidemment un dilemme. Qu'est-ce qui permet de gagner ? Il vaut mieux être soft, voire un peu démagogique. Et qu'est-ce qu'un homme d'État ? Bon, je pense qu'on est dans une situation telle, on le voit à travers la faible croissance, on le voit à travers des destructions d'emplois, on le voit à travers le déclassement de la France dans le monde et par rapport même à l'Europe. Donc à un moment donné, si on ne prend pas acte autour de ces diagnostics carte sur table qu'il faut se ressaisir et que les solutions existent, eh ben on va continuer à décliner et ça va encore accentuer les tensions qui existent dans le pays et ça ne répondra pas à la demande des Français, le pouvoir d'achat. Il faut créer des emplois et pouvoir augmenter les salaires.
Vous dites, Patrick Martin, il faut que les Français puissent avoir la patate. Est-ce que les patrons que vous voyez aujourd'hui, ils ont la patate ? Ou est-ce qu'ils sont... on parle beaucoup du moral des ménages. Qu'en est-il du moral des entrepreneurs ?
Le moral des entrepreneurs n'est pas bon, alors ça va sans doute s'améliorer si ce qu'on nous annonce au Moyen-Orient se met en œuvre. La réouverture du détroit d'Ormuz, ça a pesé quand même. Mais surtout, on se désole de voir la glaciation du paysage politique. Rien ne va se passer avant l'élection présidentielle, on n'est même pas sûr que cette élection présidentielle et les législatives qui suivront apporteront des solutions. Et nous, on a besoin de lisibilité, de prévisibilité. Et tout ça advient à un moment où la concurrence internationale...
Il ne se passe rien. Vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien.
Il se passe
on gère
rien.
Les affaires courantes.
Il se passe rien, mais c'est presque pire. C'est-à-dire que pour faire face à une situation budgétaire qui est dramatique, on détricote cette fameuse politique de l'offre qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on alourdit encore le coût du travail. Au même moment où on nous demande d'augmenter les salaires, on ampute nos marges de manœuvre. Et tout ça est fait à bas bruit. Donc, moi, je n'accable évidemment pas le gouvernement. Ça serait irrespectueux. Mais il n'a pas de marge de manœuvre. Le vrai problème, c'est le Parlement.
Le problème, c'est le Parlement, les marges de manœuvre. Patrick Martin, vous craignez une reconduite de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés en 2027. Ça, pour oui. vous, c'est le coup de grâce?
Alors, le coup de grâce, c'est beaucoup dire, mais d'abord, c'est un engagement pris par les pouvoirs publics. C'est quand même bien quand l'État honore sa parole. C'est vrai en matière budgétaire, mais c'est vrai d'une manière générale.
Enfin, oui, c'était des taxes exceptionnelles qui deviennent de moins en moins exceptionnelles.
Il était dit qu'elle devait disparaître au bout d'un an. Elle a déjà été prolongée une première fois. Je crains qu'elle le soit une deuxième fois. Il y a d'autres annonces qui avaient été faites, qui allaient dans le sens de la compétitivité, de la dynamique économique, de l'emploi, etc., qui n'ont pas été suivies des faits. Ça pose un problème très général. C'est pas spécifique au budget. Le discrédit de la parole publique est très grave. On le voit sur d'autres sujets, vous me comprenez. Et donc, moi, je suis viscéralement, le MEDEF est viscéralement républicain, démocrate, etc. Il est important que l'État fixe une ligne et se tienne à cette ligne. Le fait qu'il y ait ces coups de godille, ces errements, ces contradictions, tout ça est profondément déstabilisant. Alors, d'un point de vue psychologique, mais c'est pas neutre la psychologie d'un point de vue économique, mais ça se traduit dans les actes ou dans les non-actes. C'est-à-dire, on n'investit pas, on n'en bouge pas, parce qu'on se dit à quelle sauce va-t-on être mangé.
Est-ce que ça veut dire aussi, Patrick Martin, qu'il y a certains patrons qui font planer une sorte de menace en disant, voilà, si on reconduit cette sorte de surtaxe sur les profits, alors il faudra en tirer les conséquences. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot. Lorsque vous entendez Patrick Pouyanet qui régulièrement aussi brandit cette menace, le patron de Total, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière? Quelle est la vraie menace? Est-ce qu'il y a un risque qu'un certain nombre de patrons déplacent le centre de gravité de la France vers un autre pays d'Europe, voire même vers les États-Unis?
Mais je crois qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce sont les errements des politiques publiques qui menacent les entreprises et leurs dirigeants. C'est pas les entreprises et leurs dirigeants qui menacent les pouvoirs publics. Nous, on est pragmatique et factuel. À un moment donné, si les conditions de survie ou de profitabilité d'une entreprise sont mises en cause, le moins que puisse faire un dirigeant, qu'il soit patrimonial ou pas, c'est de sauver l'entreprise. Donc, c'est terrible. Mais c'est vrai, à un moment donné, pour assurer la survie de l'entreprise, il faut faire des arbitrages.
Vous comprendriez qu'à un moment, si c'est trop, certains patrons un peu emblématiques disent, écoutez, finalement, on va sur la bourse de New York, on part, comme ça avait pu être évoqué par Total.
Nous sommes des femmes et des hommes d'honneur, pas au point de mourir au champ d'honneur. C'est-à-dire la vocation d'un chef d'entreprise, c'est de faire prospérer et durer son entreprise. Si à un moment donné, par supposé patriotisme, il doit sacrifier son entreprise en brandissant un étendard, ça n'a aucun sens, dont pour les salariés de la dite entreprise.
Ça veut dire que le patriotisme, c'est jusqu'à un certain point, à vos yeux.
Mais non, mais attendez... On ne salue pas assez le mérite des entrepreneurs français, qui sont les plus, je parle des entreprises plus que des entrepreneurs à proprement parler, ce sont les plus taxés au monde. Si nous étions cyniques et antipatriotes, c'est pas votre propos, tout le monde serait parti. On est là. On croit en la France, on fait des propositions pour la redresser, et moi je suis le premier, pour ma propre entreprise, à continuer à investir en France. J'aurais des actionnaires étrangers, ils me diraient, mais t'es un gros timbré.
C'est d'ailleurs toute la question, on va y venir à cette question des actionnaires étrangers, des fonds de pension notamment, qui sont ciblés par un certain nombre de députés comme étouffant des entreprises françaises. Il y a un seuil de douleur avec l'impôt, c'est ce que vous dites?
Il y a un seuil de douleur avec l'impôt, mais pardon, je réagis à ce que vous disiez. Quand on regarde la part de l'épargne des Français qui est fléchée vers les entreprises, c'est 19%. Aux États-Unis, c'est 86%. En Suède, c'est pas bien loin la Suède, 83%.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là que, parce que pour des raisons idéologiques, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de fonds de pension, de retraite par capitalisation, on livre une bonne part de nos entreprises, en particulier cotées, à des actionnaires étrangers, fonds de pension ou pas d'ailleurs. C'est pas illogique qu'un étranger, mettons un japonais, veuille protéger le Japon plus que la France. Donc sans le vouloir, mais quand même, on s'est livré à des intérêts étrangers. Qu'est-ce qu'on fait en face de ça? eh ben on réagit, on met en place des retraites par capitalisation sans se substituer aux retraites par répartition.
Ce que vous voulez dire, c'est que le problème, c'est pas les fonds de pension, le problème, c'est qu'il n'y en ait pas suffisamment de Français.
Mais regardez,
le fonds de pension, par principe, est-ce qu'il n'est pas court-termiste? Est-ce qu'il ne vous met pas, vous, les entreprises, dans des situations où vous disiez, à l'instant, si j'avais des actionnaires étrangers, ils me diraient, t'es un grand malade.
Mais moi, j'ai eu dans mon entreprise.
Donc, ils vous diraient, partez.
Qui est resté pendant 12 ans. Donc il y a différentes stratégies dans les fonds d'investissement. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de dire que comme on ne s'est pas donné les moyens législatifs et fiscaux de créer un actionnariat français, on est dépendant pour les entreprises cotées. Le CAC 40, en moyenne, est majoritairement détenu par des actionnaires étrangers. Mais il en va de même pour la dette. La dette italienne, la dette publique italienne, est supérieure à la dette publique française. Oui, à part qu'elle est majoritairement détenue par des Italiens. En France, aux deux tiers, notre dette est détenue par des étrangers.
Donc on est dépendant davantage, on est plus fragile.
On est donc dépendant sur le plan technologique, on l'a vu avec l'affaire Anthropique. On est dépendant sur le plan industriel, singulièrement à l'égard de la Chine. On est dépendant financièrement, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, sur la détention du capital de nos entreprises cotées et la détention de la dette française. Alors, à partir de là, on parle pour ne rien dire. Soit on prend des mesures courageuses, ça sera le thème de notre rentrée, de notre ref de fin août, le courage.
Votre soit université d'été...
Soit on prend des décisions courageuses. Et des décisions courageuses, c'est pas de la sueur et des larmes. D'autres pays l'ont fait avant nous. Moi, j'ai pas vu, j'évoquais la Suède.
Mais vous disiez, les politiques français, il y a cette question du discrédit de la parole, disiez-vous, et puis vous craignez que rien ne se passe jusqu'à l'élection et que même l'élection elle-même ne change pas grand-chose. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que certains politiques prennent la mesure? Vous dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Quand vous entendez, par exemple, Édouard Philippe à la une de la Tribune dimanche ce week-end, qui dit, rien ne justifie le pessimisme français. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Mais moi, je n'exprime pas un pessimisme, j'exprime une frustration et de temps à autre une colère. Parce qu'il y a un gâchis terrible.
Donc on peut être optimiste.
Mais on peut être optimiste, mais il faut appeler un chat un chat. Et moi, je crois au bon sens de nos concitoyens. Prenez le cas des retraites. Évidemment, il y a toujours deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Pas de chance, il y a deux tiers des Français, les jeunes particulièrement, qui ne croient plus à l'avenir de nos régimes de retraite. Donc à un moment donné... C'est une prise de risque, j'en suis conscient, mais nous, entrepreneurs, on prend des risques à longueur de journée. Il faut que les politiques prennent leurs risques en disant la vérité et en proposant des solutions. Et en faisant, je dirais, vibrer les Français.
Qu'ils aient la patate, je retiens la formule. Patrick Martin, une question sur les tests salivaires. Vous l'avez vu, le Premier ministre dit avoir lui-même accepté de faire un test salivaire et qu'il y ait des tests salivaires de manière inopinée et obligatoire dans les cabinets ministériels, mais aussi dans la haute fonction publique. Et pourquoi pas, dit-il, dans les entreprises. Le ministre du Travail que je recevais il y a quelques jours sur RMC disait, je suis prêt même à ouvrir cette question de la drogue en entreprise avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous vous dites, dans n'importe quelle entreprise, au-delà de la question juste de la sécurité ou des entreprises où il y a vraiment une question de sécurité immédiate, est-ce qu'il faudrait, en effet, qu'il y ait des tests salivaires, comme ça, dans les entreprises, pour s'assurer que les employés ne se droguent pas?
Alors, c'est un fléau, dans l'entreprise, comme partout ailleurs.
C'est un fléau, vous le constatez, vous le voyez, ça vous remonte.
Oui. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Un magasinier sur une plateforme logistique est aussi exposé, et parfois de conséquences dangereux pour ses collègues, qu'un ouvrier posté sur une chaîne de production. Moi, ça ne me choquerait pas dans des conditions, évidemment, réglementées.
C'est-à-dire qu'il faut que ce soit effectivement inscrit à l'avance dans le règlement des entreprises pour que ça puisse arriver à tout moment.
Oui.
Et avec quelles conséquences? Est-ce que vous vous dites, si on constate qu'un de nos employés est effectivement en consommation de drogue, est-ce qu'il faut qu'il puisse être licencié? Est-ce qu'il faut qu'il puisse être accompagné? Quelles seraient les conséquences?
D'abord qu'on lui propose un accompagnement. Le cas échéant, si la situation est critique, qu'on le retire de son poste à titre de précaution. Mais on peut pas laisser les choses en l'état. C'est horriblement dangereux. Écoutez, je ne crois pas me tromper en disant que de la même manière que pour les accidents de la route, les accidents du travail sont dorénavant en bonne part liés à la consommation de stupéfiants.
Les accidents du travail sont liés à la prise de stupéfiants.
Comme les accidents de la route.
Pour une part plus importante qu'avant.
Mais oui.
L'alcool a été quand même davantage marginalisé, l'alcool au travail. Oui. Aujourd'hui, vous avez une vraie question autour de la drogue.
Oui.
Merci beaucoup Patrick Martin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président du MEDEF qui se veut quand même optimiste, même si la situation en toute lucidité est difficile. Oui, vous me laissez votre carte sur table, ce que la France ne peut plus ignorer. Allez, je vais avoir de la lecture. Merci à vous. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. 175 000 loyers impayés en 2025 en HLM, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Des locataires quasiment toujours en grande difficulté financière. Nous verrons comment ils sont aidés. Et puis on va revenir sur la qualification des Bleus pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC. Le mondial de Romain ce matin. C'est avec vous, Romain Hoog. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, toutes les dernières infos après la victoire des Bleus cette nuit et les matchs qui ont suivi. On y revient dans un instant. Mais avant ça, il y a le choix de la rédaction. Et c'est avec vous, Martin Bourdin. Bonjour, Martin.
Bonjour, Apolline.
Le nombre d'impayés est en pleine explosion. Les bailleurs sociaux ont dénombré 175 000 dossiers d'impayés en 2025. Et c'est pas parce que les locataires sont malhonnêtes.
Non, les mauvais payeurs existent évidemment, mais ils sont très minoritaires. Moins d'un cas d'impayés sur 10, selon une étude publiée en janvier. En fait, le plus souvent, les locataires ne paient plus, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus payer. Impossible de boucler les fins de mois. C'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à Maëlys, locataire d'un logement social, un T3, à La Seyne-sur-Mer, dans le Var. 670 euros de loyer chaque mois. Mais il y a quelques mois, elle a des soucis de santé, est obligée de diminuer son salaire. Et dans la foulée, son mari, cuisinier, tombe malade. Lui doit arrêter de travailler. Le début de la galère pour la petite famille, raconte-t-elle au micro RMC d'Anna Jojard.
Donc on s'est retrouvé qu'avec un seul salaire pour toutes les factures, j'étais sous l'eau. Ben, le loyer, je pouvais plus le payer. Je priorisais ben, mes enfants, ma petite famille par rapport au loyer. Puis ben voilà, je me suis retrouvée avec presque 6 000 de dettes de loyer. Je passais mes nuits à pleurer.
Vous avez eu peur, Maëlys, d'une expulsion à un moment ?
Alors oui, j'ai paniqué, j'ai stressé.
Et c'est le coup près que craignent tous ces locataires qui ne peuvent plus payer, Martin. La question des expulsions, elles sont elles aussi de plus en plus nombreuses.
Un peu plus de 30 000 locataires expulsés de leurs logements sociaux. Rien qu'en 2025, c'est une augmentation de 27% en un an seulement. Parce que demander de l'aide n'est pas simple. C'est d'ailleurs ce que nous a confié Maëlys. Elle a fini par le faire en fin d'année dernière. Et depuis, eh bien, elle est accompagnée par son bailleur Erilia pour trouver des solutions. Nous l'avons accompagnée, nous, à l'un de ses rendez-vous.
Madame, et aujourd'hui, vous avez 4 travailleurs sociaux en fait autour de là.
C'est ça. Je suis bien encadrée, hein. Il n'y a rien là.
On a essayé de vous rattraper, on n'y arrivait pas. Et un jour, vous avez eu le déclic.
Bonjour, Éline Charnoz, conseillère en économie sociale et familiale chez Erilia. J'ai rencontré Maëlys au mois de décembre ou novembre 2025. On a fait un tableau des charges, des dépenses et des ressources pour calculer un reste à vivre. Ce reste à vivre là, voilà, il était très bas au moment où j'ai rencontré Maëlys. À ce jour, ça va un peu mieux. Mais oui, il y a tout un diagnostic social et financier qui est fait en amont du rendez-vous pour en fait nous permettre de choisir les outils adaptés dans le but d'améliorer les situations de nos locataires.
Et ça fonctionne, hein. Maëlys, vous l'avez entendu, avait 6 000 euros d'impayés il y a quelques mois. Elle en a entre guillemets plus que 2 000 euros aujourd'hui.
Reste que le constat est alarmant, Martin. Tous ces locataires comme Maëlys, comment ils se retrouvent à devoir choisir entre manger et se loger.
Ouais, et dans ce cas-là, c'est souvent le loyer qu'on sacrifie. Le montant moyen des dossiers d'impayés, c'est autour de 3 000 euros d'après la CLCV, mais l'Association de défense des consommateurs constate qu'il y a de plus en plus d'impayés de plus de 6 000 euros et ça touche tout le monde, analyse Guillaume Eichelmann. Il est chargé de mission logement social à la CLCV.
Là, désormais, tous les ménages sont concernés, de la classe populaire à la classe moyenne, en passant par des employés comme des retraités. Sachant qu'on va aller vers une aggravation parce que pour l'instant, on avait des dispositifs d'aide jusqu'en 2024, mais maintenant que le bouclier tarifaire s'est éteint, on se retrouve avec les régularisations de charges des années suivantes. Nous risquons justement à nouveau une bombe sociale et une désagrégation de notre équilibre social au niveau du logement.
Il en appelle donc au gouvernement, notamment pour augmenter la partie des APL dédiée au paiement des charges d'énergie, ce forfait charge qui n'a pas été réévalué depuis 18 ans, déplore la CLCV.
Merci beaucoup Martin. Martin Bourdin, reporter RMC. Il est 8h54 et on part aux États-Unis.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Romain Hoog a passé la nuit à suivre effectivement cette Coupe du Monde. L'équipe de France qualifiée pour les 16e de finale après un match à peine croyable.
Au rage, au désespoir, le match le plus long de l'histoire de la Coupe du Monde, sans aucun doute. Débuté à 23h, terminé à quasiment 3h du matin. La faute aux intempéries et l'orage qui s'est déclenché à la mi-temps au-dessus de Philadelphie. Et ça n'a pas plu aux supporters. Écoutez-les au micro de Valentin Jamin.
Il y a de la pluie dans tous les pays. En France, on en a tous les jours quasiment, au moins 6 mois de l'année. Les matchs s'arrêtent pas, le travail s'arrête pas. Je sais pas pourquoi ici, c'est pas énorme, on va pas se mentir. Pour des conditions comme ça, ils veulent arrêter. Et ça fait maintenant plus de quasiment une heure que le match s'est arrêté. Je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon, si c'est leur culture.
2h12 d'interruption au final, c'est le protocole américain qui a été appliqué à la lettre pour la première fois depuis le début de la compétition. Dès qu'il y a un risque d'orage, un orage dans un périmètre de 13 km autour d'un lieu regroupant du public, manifestation interrompue, tout le monde aux abris pour minimum 30 minutes renouvelables tant que la menace n'est pas évacuée. Bon, l'essentiel est là, les Bleus se sont imposés, rappelons-le, et sont qualifiés en 16e.
Et puis Romain, on parle mascotte ce matin, un grand classique des compétitions sportives.
Vous connaissez Merlin ?
C'est la danse des canards.
Merlin, c'est un canard, le canard le plus célèbre du Mexique depuis qu'il a été vu arborant le maillot de la sélection de l'un des pays organisateurs et déambulant au milieu des supporters. Eh bien, sachez que Merlin est devenu ambassadeur officiel de la FIFA et le nom, l'image de Merlin seront des marques déposées auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle. Merlin a même été reçu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. C'est le troisième canard de la famille Gomez, nommé ainsi en hommage à l'enchanteur de la légende Arthur, après la mort du précédent.
Et puis on parle maintenant du sujet qui agite tout le Portugal et même peut-être plus.
Oui, Cristiano Ronaldo. Alors qu'hier soir, le grand rival Lionel Messi est entré dans l'histoire en devenant le meilleur buteur de la compétition. Le Portugais, lui, est remis en cause de partout, critiqué pour son égoïsme et son obsession pour ses stats. CR7, 41 ans, serait un handicap, voire un boulet pour l'équipe nationale. Le quotidien sportif portugais Abola a demandé à ses lecteurs d'établir leur 11 de départ pour affronter l'Ouzbékistan. Et bien ce soir, pas de Cristiano Ronaldo, ni dans l'équipe choisie par les journalistes de la rédaction. C'est l'attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, qui est lui plébiscité à chaque fois. Rappelons quand même que c'est le sélectionneur Roberto Martinez qui a le dernier mot.
Et puis la sélection iranienne a laissé un message dans le vestiaire de Los Angeles hier.
Oui, pour remercier la Cité des Anges de son hospitalité. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons joué avec honneur et nous repartons avec dignité. Voilà ce qu'on a pu lire après son match nul contre la Belgique, 0-0. Un résultat qui maintient ses espoirs de qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Los Angeles a accueilli les deux premiers matchs des Iraniens dans ce mondial. La sélection iranienne est contrainte de faire des allers-retours entre les États-Unis et le Mexique, où est son camp de base. Des restrictions liées à son séjour dans le pays, mais qui pourraient s'assouplir d'ici le troisième match, puisque les Iraniens devraient normalement pouvoir arriver deux jours avant l'affrontement contre l'Égypte vendredi matin du côté de Seattle.
Merci beaucoup Romain Houg et puis toute la rédaction d'RMC qui suivent jour après jour et à tout instant de nuit comme de jour ce mondial, évidemment. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Vous pouvez aussi retrouver la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, Alain?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Bien sûr, vous allez prendre la parole dans un instant avec les GG, les grandes gueules au 32-16. Alors on est encore dans la canicule, dans une journée qui va être encore plus chaude, et on a les appels à rester à la maison pour le télétravail, les écoles qui restent fermées, la désorganisation dans les transports. Mais finalement, allez, on va se demander franchement entre nous, est-ce que c'est de la prévention, du principe de précaution, ou est-ce que c'est de l'impréparation? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Ce sera l'un de nos sujets de discussion avec les conclusions du rapport Liana, les premières sanctions. Est-ce que ça nous redonne confiance dans la justice? 32-16 pour en discuter avec les GG.